grosse tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui passe toutes ses soirées avec Antoine Duléry au théâtre, mais qui fait relâche pour la Saint-Valentin, François Berléand. Une grosse tête qui n'a jamais attendu la Saint-Valentin pour vous envoyer sur les roses, Christine Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête qui, pour la Saint-Valentin, comme chaque année, va tenir la chandelle à Emmanuel et Brigitte Macron, Gaëlle Tchakaloff. Une grosse tête plus excitée par le match PSG Real de demain que par la Saint-Valentin de ce soir, Florian Gazan. Une grosse tête dont l'histoire d'amour avec les grosses têtes dure depuis plus de 30 ans, Gérard Jugnot. Et une grosse tête qu'on entend rarement prononcer des mots d'amour, faut bien dire, Sébastien Thoer. Ben oui, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous avez eu quelque chose ce matin de votre marin, Christine Bravo.
Il s'est lavé les dents. Moi, il me fait des cadeaux tous les jours. Alors franchement, la Saint-Valentin... Qu'est-ce qu'il dit ?
Il a dit « il reste ». Ça, c'est déjà un énorme cadeau. Il a raison, Berléand.
Et
vous, sérieusement, vous êtes invité à l'Élysée pour la Saint-Valentin, pour prendre des notes pendant que Monsieur Macron...
Non, je vais pas à l'Élysée pour la Saint-Valentin. En revanche, hier, j'ai reçu un grand bouquet de roses blanches et un petit mot qui était écrit par la fleuriste, donc je ne sais pas de qui ça vient. Et il y avait marqué « Je sais que la Saint-Valentin est demain, mais je voudrais être sûr d'être le premier ».
Waouh!
Mais c'est qui?
Nicolas Hulot!
Et vous, monsieur Toen, qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin?
Oh, moi, vous savez, je suis pas très très fête. C'est pas du snobisme, je suis pas très fête. On va faire un truc très très simple, sans bling bling. Une belle partouze avec les copains. Il y aura Valérie Pécresse après son stand-up d'hier, je pense qu'elle est en forme. Il y aura Pierre Ninet, évidemment. Il y aura Baba. Berlioz, on va passer. Hein, pour gratter une petite pipe.
Il aime bien
comme tous les vieux acteurs qui n'ont pas de thunes. Enfin, bref. Bref, on va passer une soirée très très simple. Vraiment, mais c'est une belle fête.
C'est aussi la fête de l'enfant que Beaugrand a acheté, non ? Il s'appelle Valentin.
Ah mais oui, c'est vrai qu'il s'appelle Valentin.
Ah oui. C'est ignoble.
Elle est ignoble.
Pas du tout.
En plus, c'est dur, c'est salaud de dire qu'il l'a acheté parce que c'est un paiement en trois fois.
Non, puis les choses n'ont pas forcément une signification. Elle s'appelle Beaugrand, il est ni beau ni grand. Donc ça veut rien dire tout ça, ce qui compte c'est l'amour.
T'as pas une tête de Troène,
toi ? Mais tout le monde laisse
pardon,
la tête, Saint-Valentin ou pas ?
T'as pas une tête de Troène ?
Ah, c'était mon surnom en primaire.
Ah oui ?
Ouais, avec grosse bite. Déjà à l'époque, François.
Bon, je crois qu'il est temps de passer...
Attends, mais là, ça tourne, là, on écoute ce que je
oui,
dis.
Oui, oui.
Ah merde. C'était entre nous, c'était un comptoir, une
fuite. Il est temps
fuite.
De passer à une première citation qui a dit, et ce sera pour Delphine Paris, qui habite Maubeuge, une citation spéciale dédicace à Christine Bravo, qui, rappelons-le, va se marier au mois de juin prochain.
Mais non.
Qui a dit le... Ah si. Pourquoi vous avez dit mais non?
C'est dans le cadre d'une caméra cachée. Mais, non, mais genre, c'est l'émission spéciale sur C8, il y a un truc...
Qui a dit « En mariage, c'est souvent le coup de foudre, on sait plus, puis à la fin, on sait plus. »
Jean-Yann ?
Pas Jean-Yann.
C'est Jacques Martin. Jacques Martin.
Pas Jacques Martin.
Coluche ?
Qui a dit Coluche ?
C'est moi.
Eh ben, c'est Florian Gazan qui a la première bonne réponse. Deuxième citation sur le mariage, toujours pour Christine, donc, et pour Sandra Le Pontois, qui habite Calais, qui a dit « Le mariage, c'est comme le menu des restaurants. Il faut attendre la digestion pour savoir si on a fait le bon choix. »
Est-ce que c'est un cuisinier ?
Non, c'est quelqu'un qu'on cite rarement, bah il faut alors. Bien dire, parce que c'est pas une habituée, c'est une femme qui a dit ça, une habituée des citations, mais en revanche, on peut dire qu'elle connaît le sujet.
Anne-Marie Carrière ?
Ah, alors, c'est Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot, non.
Mais ça pourrait.
Zaza Gabor,
non.
Liz Taylor.
Ce genre.
Liz Taylor, voilà. Bonne réponse de Sébastien Thoer. Oh.
Moi, je connaissais la citation, mais en anglais, alors évidemment.
The wedding is like the restaurant menu. You have to wait the digestion to know if you did the good choice.
Ah bah ça c'est en VO approximativement. Voilà.
If you made the good choice.
You made a good choice.
Did the good choice.
Listello.
Bonne réponse de Mr. Berléand. Qui a dit « J'ai enregistré les petits bruits que faisait mon bébé. Quand il sera grand, je pourrais lui demander ce qu'il voulait dire.
» c'est mignon.
Bah, Christophe
Français ? C'est pas français.
C'est pas français.
C'est un psychanalyste ?
C'est un habitué de nos humoristes américains.
Woody Allen.
Stephen Wright ?
Non. Stephen Wright, bonne réponse de Florian Gavant. Pour Fabrice Delazève, qui habite Mitry-Mory en Seine-et-Marne, qui a dit « Faut faire attention quand on jette une gousse d'ail au retour du Jedi.
Oh » Valérie Pécresse, la spécialiste de Star Wars.
Non, c'est pitoyable, ça.
C'est un jeu de mots.
Ah, dites pas, c'est pitoyable, parce qu'elle fait des galas avec lui, monsieur Juniau.
Sim ?
Sim ! Bonne réponse de Gérard Juniau.
Quel acheteur ? Parce que moi, un mec qui a fait des galas avec Sim. Non mais ça fait quoi, non, 1000 ans
jeune, les galas des grosses têtes, c'était le plus jeune des grosses têtes.
C'était le petit jeune à l'époque.
Je les ai vus. Je les ai vus. J'étais au Havre. Je suis allé. J'avais 18
mais
ans.
Oui, il était jeune.
Je suis allé sous chapiteau voir Gérard Jugnot, Léon Zitrone, Sim.
Et oui. Comment il était, Gérard
et Philippe Jugnot. Castelli. Vous avez l'enterrement de Philippe Castelli.
T'es honteux.
C'était produit par Orpea.
T'es honteux.
Encore une citation du même genre pour Olivier Collonge qui habite Dreux en Eure-et-Loire, qui a dit « Quand Daffy Duck et Donald Duck se bagarrent, ça donne un conflit de canards. »
Oh. Eh ben ça, si, bon. Encore.
Ça, Jean-Yann. Non.
Pas Jean-Yann, mais c'est encore une grosse tête.
Jean-Yann Armabille.
Non, une grosse tête qui aimait bien les à peu près, comme ça.
Qui est morte.
Pierre Rep.
Grosse tête qui est morte, oui.
Ramad.
Non, 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 donc qui a été longtemps, longtemps grosse tête. Mais peut-être pas au moment où vous y étiez, monsieur Juniau.
Carlos.
Carlos, bonne réponse de Gérard Juniau. Une première question pour monsieur Darc, qui habite le Valois-Perret dans les Hauts-de-Seine. J'aimerais vous parler de monsieur Henri Oreiller. Il a été victime d'un grave accident de la route. D'ailleurs, il en est mort à l'âge de 36 ans en 1962. Il était sur un circuit, l'autodrome de Montlhéry, lors des coupes du salon, au volant d'une Ferrari 250. Il avait 36 ans. Et pour quelle raison reparle-t-on d'Henri Oreiller aujourd'hui dans la presse ?
Il s'est endormi.
À cause de la Saint-Valentin ?
Non.
Il s'est endormi ?
Non.
Mais c'est un skieur, Henri Oreiller.
Oui, c'est un skieur. Oui.
C'est un skieur, Henri Oreiller.
C'était un descendeur.
Oui, c'est un
descendeur. Il a une piste oreiller qui lit.
Exact. Oui, il avait eu 3 médailles pendant la même Olympiade, ce qui arrive rarement. Oui. Il y a tout un classement aujourd'hui de ces athlètes français qui ont remporté le plus de médailles en une seule édition au JO d'hiver. Et il fait partie effectivement de ces 5 sportifs qui ont eu 3 médailles pendant la même Olympiade. Henri Oreiller, qui après effectivement avoir été skieur, ça arrive souvent d'ailleurs parce que on en a
Luc
un autre.
Alphand, oui,
Luc Alphand a fait la même chose, sauf que lui, Henri Oreiller, ça s'est mal terminé à 36 ans. Il en est mort du sport automobile. Bonne réponse de Florian Gazan et François Berléand.
Killy a eu 3 médailles d'or.
Killy aussi, effectivement. Mais... Oui. Killy, lui, c'était effectivement en 68. 3 médailles d'or, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. On fait rarement 3 en or. Ouais. Martin Fourcade en a eu 3 aussi au biathlon.
Oui. Et Lucien Polochon aussi.
Pardon.
Lucien Polochon.
Avec monsieur Oreiller, oui, monsieur Juniau.
Ça, il la faisait déjà dans les tournées.
Oui, bah voilà. C'est une vieille blague qu'on faisait avec
Laurent l'avait vu au chapiteau, celle-là.
Enfin, Gérard, vous n'avez pas honte.
Non.
Voilà, en tout cas, pour l'hommage rendu à monsieur Oreiller. Merci, Gérard. Qui skie bien ici, d'ailleurs, tiens.
Gérard skie très bien.
Ah, c'est vrai, Gérard, oui.
Oui, jusqu'à il y a 15 jours, je me suis viandé, mais.
Et vous, en chaque fois, vous devez bien skier. Vous,
ça va.
Ah, je suis sûr.
Ça va. Quand je suis sûr, c'est en voyant marcher, vous dites, elle skie bien.
Bah, non, mais c'est pas ça. On a dû vous foutre sur des skis à 2 ans et demi, j'imagine.
C'est ça, oui.
Vous, voilà. Les bourgeoises, je veux dire.
Ah non, mais je vais encore me faire détester.
Vous qui passez toujours en vacances au ski.
C'est exactement ça que je
pensais. Mais bien sûr.
J'ai pas osé.
Mais je vous connais tellement. Avec votre mauvais esprit. Heureusement que vous nous payez bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il a dit, genre, toi, la bourgeoise qui fait partir au ski l'hiver et puis aux États-Unis l'été, qui revenait avec les belles marques, les premières consoles de jeux.
Mais pas du tout, j'ai pas du tout été élevée comme ça.
Y a pas
du
tout, ouais. Avec les riches, mon père était maçon et j'allais skier en Suisse, ma poule.
Mais non,
ouais. Ça alors.
Il se saignait.
Il était franc maçon, tu confonds.
À l'époque, c'était moins cher de skier en Suisse qu'en France.
C'est vrai ?
Ah bon, aussi, dit que c'était un pouillot aussi, mon père.
Non, mais il y avait pas.
Voilà.
Ah oui, mais David s'appelle les cours de ski, pas ceux de vin chaud. C'est ça le problème.
C'est reparti. Non, mais vous avez une bonne descente alors ?
Ah oui, ça.
Monsieur Toen, vous skiez, vous ?
J'aime bien la poudreuse, ouais. Ça s'entend, non ?
Les gens me demandent si vous êtes drogué, monsieur Toen.
Bah, demandez à mes amis, Nicolas Bedos, Philippe Lelouch.
Oublions les sports d'hiver. Pour Kevin Bach, qui habite Maurepas dans les Yvelines. Et j'aimerais vous parler d'un Russe qui s'appelle Nikita Katsalapov.
Ah, c'est de ta famille, Gaël, ça.
Est-ce que vous le connaissez, Nikita Katsalapov ? Il est un peu triste, Nikita Katsalapov. C'est pour vrai. Quelle raison ?
Il est d'origine ukrainienne ?
Ah, il n'est pas d'origine ukrainienne, Nikita Katsalapov.
Il a perdu sa mère ?
Ah, il a pourquoi ?
Il est russe ?
Pourquoi
bah, parce que vous avez dit il est triste, c'est quand oui, on perd sa mère.
Il a perdu ses clés ?
Ou enfin, il y a d'autres raisons d'être triste.
Il a perdu son père alors.
Il a perdu son chat, non ?
Il a été
il a oublié son code PIN. Il a oublié son code PIN de son téléphone, ça c'est rageant. C'est à l'époque soviétique ?
Non, il est assez jeune encore, Nikita Katsalapov.
Il joue aux échecs ?
Il joue pas aux échecs.
Mais il est sportif.
Il est sportif.
Ah, il a perdu au JO de Pékin de peu.
Oui, mais en quoi ?
Patinage artistique.
En curling. Effectivement, c'est le patineur artistique qui, avec Victoria Sinitsina, ont terminé deuxième derrière nos Français. Et c'est bien fait pour les Russes, parce que souvenez-vous quand même que les Russes avaient quand même été un peu dégueulasses avec notre Français Cizeron. Ils avaient dit, oui, ils peuvent pas gagner parce que on sait très bien les mœurs. Je cite les Russes.
On cite Poutine, là, maintenant.
Carrément. Les mœurs qu'a le patineur français, on peut pas croire en l'amour qu'il a pour sa partenaire.
C'est dégueulasse.
Bon. Non, c'est ceux qui regardent qui en sont, généralement. Le patinage.
Pardon?
Le patinage, c'est ceux qui regardent qui en sont.
Qui commence à tirer.
Ah, moi je suis hétéro, j'arrête pas le patinage. J'écoute pas Mylène Farmer, je trouve pas Fanny Ardant jolie, je suis hétéro quoi.
Mais qu'il est con ! Elle est très jolie, Fanny Ardant, et je vous conseille le dernier film superbe, Les Jeunes Amants, avec Melville Poupeau.
Extraordinaire, je l'ai vu.
Très très beau super film. Bien. Alors là, franchement, je vous conseille d'aller voir.
Incroyable. Comme tu respires.
Il y a un playback dedans. Ouais. C'est pas elle qui joue, en fait, c'est pas elle qui parle. Mais c'est hyper bien doublé, c'est incroyable. C'est comme les films avec Berléand, c'est pas lui qui parle. Il y a un mec derrière enregistré. Mais ils ont mis Samuel Le Bihan.
C'est arrivé en Italie où il y a des grands accents et Franco Nero, c'était pas sa voix.
Et Valérie Pécresse, hier, c'était De Gaulle, la voix.
Bon, on peut passer à des vraies questions ou pas ?
Ah, si vous voulez une vraie question, je vais vous en donner.
Il
y a une question sur Nabila dans 10 minutes, rassure-toi.
Elle est enceinte.
Elle fait sa maline, alors attention, on va voir. Regardez, je vais lui sortir quelque chose. Elle va pas revenir. De qui Sylvia Hamilton était-elle l'amoureuse ? On en parle beaucoup dans les journaux ces jours-ci parce que c'est grâce à elle qu'on vient de récupérer. Mais qu'on vient de récupérer quoi ? Et de qui était-elle amoureuse ?
Saint-Exupéry.
Bonne réponse de Christine Bravo.
On a récupéré quoi ?
Eh ben, on a récupéré le manuscrit de Saint-Exupéry. C'est elle qui l'a tapé, le manuscrit. Elle était à la fois l'amoureuse et la secrétaire de Saint-Ex là-bas à New York, parce qu'il avait quitté l'Europe, Saint-Exupéry, et c'est effectivement là-bas qu'il a écrit Le Petit Prince, et on vient de récupérer le manuscrit, que vous pouvez d'ailleurs aller voir. Il y a toute une exposition événementielle au Musée des Arts Décoratifs, là, à partir du 17 février. Dans quelques jours, ce sera l'inauguration, et vous verrez des tas de, j'allais dire, des reliques quasiment, on peut dire ça, mais en tout cas, les premiers dessins et les premiers textes manuscrits de Saint-Exupéry, Le Petit Prince étant un des livres toujours les plus vendus au monde aujourd'hui.
Je sais pas pourquoi c'est aux États-Unis ce truc-là. Hein, Saint-Ex, il est français, il est écrit en français.
Bah, il vivait là-bas.
Oui,
et alors
ils nous l'ont prêté, on n'est pas obligé de leur rendre.
On n'a qu'à faire une photocopie, on le rend, ils sont tellement cons.
Non, mais c'est vrai.
Parce qu'on l'a pas récupéré, ils nous l'ont prêté.
Oui, oui, ils nous l'ont prêté seulement, mais à l'OTAN.
Non, mais déjà, le livre, il est surestimé, il faut arrêter.
Ah oui. Alors là, c'est drôle, parce qu'on n'arrête pas de dire que vous remplacez Bénichou ici. Mais alors, dès qu'on prononçait le nom du Petit Prince et de Saint-Exupéry ici, Pierre Bénichou râlait en disant que c'était nul.
Mais ouais.
Pas nul.
On a des écrivains formés. Il y a David Douillet qui a sorti ses mémoires. Personne n'en parle.
Non, mais moi, j'ai une vraie question. Combien de temps est-il resté avec la Sylvia Hamilton? Je veux dire, par rapport à Consuelo, est-ce qu'on sait à peu près c'était concomitant?
Elle veut placer ce qu'elle sait, elle est marrante. Elle.
Voilà, elle veut.
Ouais, ouais. Elle veut trouver une question où je peux répondre.
Je m'intéresse.
Vous avez vu comment discrètement elle a placé Consuelo?
Non, mais c'est pas
grave. Non, mais
on est. Je m'intéresse.
Et elle croit qu'on est dans un dîner mondain. Une question pour Lucie Gronvist, qui habite Caen, dans le Calvados. On retourne en Allemagne, tiens, mais en 1908.
Ah, bonne époque.
Elle n'est pas encore la guerre.
Max Hübner, en 1908, a eu une idée incroyable qui continue à faire carton aujourd'hui. Et d'ailleurs, la société qu'il a créée en 1908 en Allemagne existe encore aujourd'hui.
Et pourquoi on en parle?
Ah! Il y a une raison précise.
On s'en sert.
Et c'est vrai qu'il y a un lien avec l'actualité, vous me connaissez.
Saint-Valentin.
Ils font des patins à glace.
Alors, il a créé quoi, Max Hübner, en 1908?
Il a créé les toupies pour le curling?
Non.
Non.
C'est par rapport au JO?
Il a créé Interflora?
Il a créé Interflora. Bonne réponse.
Comment tu sais ça, toi?
Eh oui. Il était artisan fleuriste à Berlin, Max Hübner, en 1908. Vous vous rendez compte, moi, Interflora, je pensais que c'était bien plus récent que ça, mais non.
Je pensais que c'était français, surtout.
Eh ben non, il a eu l'idée d'importer des fleurs de la Riviera méditerranéenne.
Gros charnac.
Pour les expédier vers la Russie des tsars. Et comme les fleurs supportaient mal le voyage, il a eu l'idée d'établir des relations commerciales avec des confrères implanté directement sur les lieux de livraison. Et c'est comme ça qu'il a constitué un réseau de 98 fleuristes au départ qui se transmettaient des commandes par télégraphe à l'époque, vous voyez. Ça vient d'Allemagne, Interflora, en tout cas, c'est qui est fou. Comment on dit fleur en
Blume.
Allemagne?
Blume.
Ah, Blume. Ich will Blumen.
Ich will Léon Blum.
Non, mais on va appeler quelques fleuristes, si vous voulez bien, parce que là où j'ai été surpris, c'est que dans Le Parisien, ce week-end, on nous conseillait, oubliez les roses, les fleurs viennent du bout du monde, elles ont une empreinte carbone catastrophique. Alors, on va appeler quelques fleuristes, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
Ah bah oui, par exemple, Mimi Pinson à Marseille, on va leur demander leur avis. Ça a sonné chez Mimi Pinson à Marseille. On va les déranger en
plein. Elle va croire que c'est pour la valise.
On va leur parler, évidemment, à Marseille, comme par hasard.
C'est vrai qu'on aime bien l'accent.
Mimi Pinson, bonjour.
Bonjour, je suis bien chez Mimi Pinson à Marseille.
Oui, c'est ça.
C'est les grosses têtes qui vous appellent, madame.
Ah, écoutez, le problème, j'ai pas vu dans le temps.
Je me doute que vous êtes une journée très très occupée aujourd'hui pour la Saint-Valentin. C'est pour ça justement qu'on vous appelle. Dans Le Parisien, il disait oubliez les roses. Il ne faut pas acheter de roses parce qu'elles viennent de trop loin. Vous.
Oui, mais nous on a des roses du Var, monsieur.
Ah.
Voilà, on a trouvé des roses du Var.
Hein?
Voilà,
alors que
vous
pas
à
casser les couilles, Olivier. Ouais,
on ne sait pas venir des roses du Kenya.
Voilà.
Très peu de Hollande et c'est que du Var.
Et en cul,
Marseille, mais... voilà. Hein.
Eh ben bravo alors. Alors écoutez, on vous envoie une montre RTL et vous nous envoyez des roses du Var. Mimi Pinson à Marseille, bravo.
Voilà.
On va essayer. On va essayer Toulouse.
Ça te va, François?
Il n'y a pas un fleuriste au Kenya?
On va essayer Toulouse. Alors, un joli magasin, manifestement. Arrosoir et persil, ça s'appelle.
Oh, on dira un titre de film de boule.
Pas du tout.
On va appeler chez Arrosoir et persil à Toulouse.
Arrosoir et persil.
On va tomber sur Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, j'écoute.
Arrosoir et persil, bonjour.
Bonjour monsieur, je suis bien chez Arrosoir et persil à Toulouse.
Oui.
Ce sont les grosses têtes qui vous appellent sur RTL. On sait, on va pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'on sait que c'est une journée très chargée aujourd'hui, j'imagine.
Oui.
Et dans Le Parisien, il nous disait ce week-end, oubliez les roses, n'achetez pas de roses pour la Saint-Valentin parce qu'elles viennent de trop loin. Alors, chez vous, elles viennent d'où les roses?
Elles viennent de Hollande, cher monsieur.
Ah, ça va, c'est pas trop loin quand même, alors.
Trop loin, dans le milieu toulousain, on n'a pas trop d'horticulteurs, donc les plus belles, c'est la Hollande.
Alors, les plus belles, c'est la Hollande. À combien?
Et celles du Var, elles sont, restées dans le Var, donc je les ai pas à Toulouse.
Ah, tu vois, ils gardent leurs fleurs dans le Var.
Enfin, pas tout à fait dans le Var, parce qu'à Marseille, ils en ont quand même dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est pas loin.
C'est à côté. côté.
Voilà, c'est à côté. On vous remercie, on vous envoie une montre RTL et on conseille à tout le monde d'aller chez Arrosoir et Persil à Toulouse.
Merci beaucoup.
Alors, on va essayer un Parisien, quand même, un
fleuriste
parisien.
Rue de Solferino, on va voir d'où viennent les roses. S'il y en a encore.
Il y a Vertige à Paris. C'est pas mal, ça, comme nom de fleuriste. Vertige. On va appeler Vertige.
Ah, Vertige, ça sent le jeu de mots, non? Tige décalée.
Oui, vert. C'est en deux mots.
Arrosoir et Persil, c'est un jeu de mots sur au revoir et merci.
Ah, ça doit être ça.
Ouais. Ah, c'est comme, c'est une contrepétrie.
Ouais. Arrosoir et Persil. Bonjour, je suis bien chez Vertige à Paris.
Oui, bonjour. C'est Laurent. Courbevoie.
C'est, ah, Courbevoie, très bien. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appelle.
Bonjour.
Aujourd'hui, je sais que vous êtes occupé, on va faire vite, mais c'est parce que le Parisien a dit qu'il fallait oublier les roses pour la Saint-Valentin parce qu'elles viennent de trop loin du Kenya. Vos roses, elles viennent d'où à vous ?
Elles viennent de Hollande.
Ah.
De Hollande et d'Équateur, c'est vrai.
Ah, de l'Équateur.
Un petit peu du Midi, mais très peu.
Ah, un petit peu du Midi.
Mais comme... pourquoi vous n'avez pas de roses du Midi, par exemple ?
Parce que malheureusement, il y a très peu de producteurs.
Voilà,
c'est ça. Les producteurs sont morts.
Et ben voilà. Ça, ils sont morts.
Voilà. Et donc, c'est le grand remplacement. Il est kényan.
Comment on reconnaît une rose kényane d'une rose du Var ?
Tout ce qui est rose d'Équateur, c'est des très gros boutons.
Ah, des gros boutons.
Voilà. Ah oui. Avec des belles tiges.
C'est très équatorien.
Vous avez une belle équipe, là.
Ah, je crois que pour ça, vous avez mérité une montre RTL, madame. On vous embrasse. Bravo, merci.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Gérard Jugnot, Gaël Chakalov, François Berléand, Christine Bravo, Florian Gazan et Sébastien Thoen. Pour Claude Manviel, qui habite en RJ, la première question littéraire du jour.
Ah, Gaël, vas-y.
À nouveau, à propos du Petit Prince. Et là, on va voir, parce qu'on en parle, du Petit Prince. Mais l'avez-vous vraiment lu ou vous l'a-t-on vraiment raconté? Quel est le premier dessin fait par l'aviateur à la demande du Petit Prince?
Eh ben, c'est le renard éléphant dans
une côte d'agneau?
Pardon,
le renard?
Non.
C'est un éléphant dans un boa?
Non, pas du tout.
Un kebab?
Une côte de mouton?
Pardon?
Un mouton?
Un mouton, non. Alors, c'est vrai que...
Attends, je comprends pas la question.
Ah bah, comment ça, vous comprenez pas la question?
Non, non, c'est mal posé.
On parle d'autre chose. L'aviateur, il est là, il a une panne de moteur, il se pose en catastrophe, il est dans le désert du Sahara. Et puis là, va apparaître cette petite voix qui lui demande, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
C'est un roumain.
Mais qu'est-ce que lui dessine? Le petit prince est pas roumain.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Mais il lui dit...
Dessine-moi découvert une assiette.
Pour quoi faire?
Bah pour manger le mouton.
Non, écoutez.
Une barrière.
Non, il est là. Vous voyez, c'est fou.
Une barrière.
Vous n'avez pas.
Un parc.
Ah non, 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 mais
c'est
alors,
un autre animal.
Une fleur. Il lui dessine une fleur.
Non, pas non. Du tout.
Une PlayStation.
Non plus. Eh bien, vous voyez, je suis bien content.
Un Vélib.
J'ai la preuve que personne, en fait, n'a lu le Petit Prince.
Il lui dit, on l'a lui dit, mais ton mouton. Il lui dit, mais ton mouton, il risque de s'échapper. Et
une barrière
et il doit d'abord construire un enclos.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Il dessine un bédouin?
Non.
Une boîte à meux?
Quoi?
Une boîte à meux.
Une boîte à meux.
Mais un mouton, ça fait pas meux.
Ça fait mou.
Une boîte à baies.
Non, mais bon, c'est quand même, c'est proche, quoi.
Un collier.
Comment ça, un collier?
Un collier de mouton.
Une laisse.
Une femme.
Effectivement, vous avez raison, Christine, on progresse. Quand il lui dessine son premier dessin, l'aviateur...
J'ai compris, c'est une cabane, et il lui dit le mouton est à l'intérieur.
Alors, pas une cabane.
Mais voilà, ben
c'est bergerie.
Ça. Une tente.
Une bergerie.
Un gîte.
Un igloo.
Il dessine quelque chose, une boîte, il lui dit le mouton est à l'intérieur.
Une caisse. Bonne
Merci
réponse,
alors.
Christine, bravo.
Alors, tu vois, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Mais je suis placé là.
Mamie, arrête, mamie, calme-toi, mamie.
Parce que je suis là, maintenant, il me regarde plus.
Bah oui,
ça, c'est ma place. Je peux pas être calme.
Parce que François Berléand a pris la place de Christine Bravo.
Non, on n'a pas le droit,
On
n'a pas le droit.
Les micros sont infectés.
Si on fait quelque chose qu'il n'a pas décidé, ça va chier.
Bienvenue en Corée du Nord.
Pardon, excusez-moi de dessiner le plan de table tous les jours. Oui, je fais un plan de table.
S'il vous plaît, dessine-moi un plan de table.
Parce qu'effectivement, je sais...
Je peux savoir.
Oui.
Je peux savoir pourquoi je suis là, alors je suis toujours là.
Et ben parce que tout s'est décalé. Parce que d'habitude...
Ah ouais, parce qu'il faut garder la place à qui ? Comment il s'appelle l'autre au bout, là ?
Toen.
Toen. Alors il faut garder la place de Toen, donc Berléan se retrouve à ma place, et moi on s'en fout.
Mais qu'est-ce qu'elle a, Simone Garnier, elle est bourrée ou quoi ?
Je suis toujours sur l'aile gauche.
Mais il y a peut-être une raison.
Toi, t'es le plus proche, t'es la plus proche de lui.
Mais oui.
Mais oui, regardez, vous êtes près de moi, cher
ça
Christine.
Ça fait quatre fois que je vous dis, il dessine pas un bouton, il dessine une boîte. Et
ah non, 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 non. Non, 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 vous m'avez pas
dit. Non, non,
une caisse.
Bien tenté, non, bien tenté, moi j'y crois.
Dessine-moi une mytho.
Il dit, il a lâché.
Dessine-moi une mytho. Et là, il dessine. Christine, bravo. Vous avez raison, Gazon. J'ai une autre question littéraire et on va oublier le Petit Prince.
Ah, puisque... c'est dommage parce que c'était bien.
Ah oui, oui. Mais... Il y a une élection à l'Académie française jeudi prochain, le fauteuil 35. Il y a 6 fauteuils de libre à l'Académie en ce moment. Bon, on va pas les remplir les 6 d'un coup, hein. On en fait un par un. Et c'est vrai que jeudi prochain, le fauteuil 35 verra peut-être un nouveau postérieur s'installer à l'Académie française. Et c'était un fauteuil occupé par un académicien qui a publié quelques livres. Et j'aimerais que vous retrouviez le nom de cet académicien décédé, donc vous l'aurez bien compris, ouais, qui occupait le fauteuil 35, qui cherche encore un successeur.
Dabadi ?
Ah non, c'était pas
Qu'est-ce
Dabadi.
Qu'il a écrit ?
Alors je vais vous donner justement, évidemment, les titres de ses livres.
Oui, alors ça veut dire qu'il a, il était vraiment pas connu pour ça, quoi.
La transparence de la cornée.
Oui, c'est ça.
Alain Felouf ?
Les lentilles souples.
Ok, donc le mec était un peu oculiste. Ouais.
L'herpès de la cornée. La cataracte.
C'était un médecin.
La transparence de l'œil.
Gilbert Montagnier.
Les yeux de l'autre.
L'intégrale.
C'est Montagnier, là.
Un oculiste au temps des Lumières. L'œil dévoilé. Lunettes ou laser ?
Ah, Jean-Louis Chris.
C'est pas possible.
Voilà la liste des livres publiés par cet académicien français.
Il est
français.
Pas connu, votre mec.
Ah bah, il était effectivement à la fois essayiste et ophtalmologue.
Oui, c'est ça, ophtalmologue. Oui, oui.
Alain Miquelet ?
C'est pas trouvable, votre mec.
Comment ça, c'est pas trouvable ?
Bah, on pas l'a vu à la télé.
Oui, je vous regarde, je vous vois là.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il est connu, ce mec.
Eh bah, ben, restez comme ça.
15-20
Mais Laurent, on le connaît tout de suite, on peut pas deviner.
Est-ce
quelqu'un
qu'il s'est fait connaître par des écrits autres que ceux qui concerne l'optique.
Non, il a fait des essais autour de l'œil, évidemment,
ah bah oui, alors,
essentiellement.
L'œil du cyclone.
Est-ce que vous connaissiez son nom avant de nous poser
oui,
la question ?
Oui, parce que Karine Le Marchand nous en avait déjà parlé ici, c'était son voisin, il habitait...
Ah, le même Jean-Marie Le Pen.
Il habitait...
Elle a fait l'émission avec sa fille, elle est capable, elle n'a rien à foutre. Bah, sur l'œil, il est fort sur l'œil, quand même. Allez-y, Laurent Ruquier, on vous écoute. Faut mettre un peu de culture dans l'émission, quand même.
Ouais, bah oui, c'est ce que j'essaie de faire avec cet académicien français, essayiste, ophtalmo, élu en 1992 à l'Académie, vous voyez. Et puis il est mort en 2020, vous voyez, déjà presque 2 ans. Il est mort en février 2020. Et
on en a parlé quand il est mort.
On peut peut-être commencer par son prénom.
Ah les initiales de son prénom. Yves,
oui.
Yves
Dalton.
Yves Dorsay.
Non, non, non. Ah bah voyez, vous connaissiez pas tous les académiciens français.
Est-ce qu'il a une station de métro ?
Ah bah non, non, non.
Bah non.
C'est un nom typiquement, comment dire, c'est un nom connu.
Mais c'est-à-dire connu dans quel secteur ?
Ça veut dire Yves Dupont ?
Connu de Gaulle ?
Yves Ruquier ?
Mélenchon ?
Yves Rioux ?
Ruquier ?
Non, non.
Yves Ruquier ?
Qu'est-ce que vous entendez par nom connu ?
Ben parce que c'est un nom qui sonne...
Dupont ?
Yves Morin ? Yves Morin ?
Martin ? Yves Martin ?
Non,
Dupont ?
Ça sonne quoi ? Ça sonne politique ? Ça sonne littérature ?
Ça sonne
politique ?
Ça sonne. Ouvrez, ça sonne.
Ça sonne. Clochette ?
Dring, dring ?
Non, 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 non. C'est une marque d'échalote aussi, tiens, voilà.
Une marque d'échalotes.
C'est une grosse,
quoi.
C'est un groupe qui commercialise des échalotes.
Ah, le groupe.
Ils
font que de l'échalote.
Ils font de l'oignon aussi. Oignon rouge, oignon bleu, non ?
Magie.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sonne un peu breton aussi. Yves Florette.
Ah, Kermadec. Le Meur.
Kermadec, Kermadec.
Le Gouen.
Kersozon.
Carandec.
Non, mais il y en a à foison en Bretagne des noms pareils.
Artichaut.
Eh oui.
Artichaut. Le Cloarec.
Le Guélec.
Non.
Le Galet.
Non.
Le Guénec,
le Voloc,
la Trinité.
Yves Bolloré.
Non.
Ce serait tellement bien, ouais. Putain.
Ah, il en fait de l'échalote.
Non, mais on va donner 300 euros.
Pour oui, allez, parce que l'échalote...
Et à moins que quelqu'un ait déjà consulté ce célèbre ophtalmologue...
Vous mangez de l'échalote.
De l'herbe.
Non, non, non. Ophtalmologue, académicien français.
Ça y est, on a compris.
Quoi, on a compris ?
Pardon, patron.
Rothschild.
Mais non, vous allez arrêter de râler dans votre coin.
Vous avez...
Yves.
Et voilà. Et si vous aviez le JDD, vous le sauriez. Est-ce que quelqu'un dans la salle va toucher 100 euros de plus?
Bah tiens, bien sûr.
Non. Une main se lève. C'est la honte pour les grosses têtes si la personne.
Faut pas exagérer. Hein.
Connaît le nom. Allez-y.
Je vous signale, Jack, il a des lunettes, donc il est avantagé. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous appelez comment?
Jacques Pilar.
Bonjour, Jacques Pilar. Alors, qui était cet académicien
fameux Coq.
Yves Lecoq, on me dit.
Yves Lecoq? Ah non, non.
Il était imitateur, monsieur.
Oh bah moi aussi, je peux dire Yves Tanguy.
Non, il imitait bien.
Je me suis
bien.
Déplacé pour ça, quand même.
Yves Pouliquen. Yves Pouliquen.
Ah, Pouliquen.
Ah, Pouliquen.
300 euros qui s'en vont. On vient de perdre 300 euros avec monsieur Pouliquen.
Sur le salaire de François, c'est terrible.
Personne ne sait qui est Pouliquen.
Oh, bah, je suis désolé, c'était un grand ophtalmologue, académicien français dont le fauteuil est libre.
Et voisin de Karine Lemarchand. Bah oui, c'est important quand même.
Non, voisin de Corinne Lemarchand, c'est accessoire. Ça, c'est parce que vous m'avez demandé si on le connaissait. Je vous ai dit oui, mais je veux dire, c'est
elle pas, le connaissait.
C'est pas parce qu'il est voisin de Karine Lemarchand qu'il a été élu à l'Académie française que je sais.
Elle a fait l'émission Karine Lemarchand hier. T'as écouté, Gaëlle? Elle a fait l'émission Karine Lemarchand la semaine dernière.
Oui, non, j'ai pas écouté.
C'était pas. Bah dès qu'il n'y a pas un prompteur et une vache, elle est un peu perdue quand même. Hein. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui ressemble à une vache. Je dirais pas qui.
Tu as des amis, toi, dans la vie?
Bien sûr, il y a François Berléand. Hein, François, t'es mon ami?
Ouais. Bah, j'ai une question qui va plaire à François Berléand et à Gérard Jugnot.
Un peu de culture générale.
Nos acteurs du jour, puisque la question concerne Jean-Pierre Mocky. Je ne sais pas si vous avez tourné l'un et l'autre avec.
Il était aimable. J'adore ce mec.
Pour Caroline Zilina qui habite Bondy en Seine-Saint-Denis, Jean-Pierre Mocky avait raconté qu'un jour il avait eu un projet de film avec quelqu'un, mais un projet qui était tombé à l'eau si j'ose dire, parce que il avait présenté l'acteur à son producteur dans un bar d'hôtel, mais comme il buvait comme un trou, cet acteur, il était ivre mort, il est allé aux toilettes, il s'est levé de table alors qu'ils étaient en train de dîner avec le producteur, et l'acteur est revenu, il s'est installé à une autre table en revenant face à deux inconnus et il a continué la discussion en croyant que c'était eux. Et évidemment, le producteur est parti furieux.
C'est génial.
De quel acteur s'agit-il?
Donc, il faut nommer un alcoolique notoire.
Robert Mitchum.
Non, pas Mitchum.
Un français, un américain?
Mais c'est un américain.
Richard Burton.
John Wayne.
John Wayne, non.
Kirk Douglas.
Nicholson.
Non plus.
Peter Niney.
C'est reparti.
Ah, il arrive même à le placer là, non mais. Ce mec est fou.
Mais je comprends pas, tu l'aimes pas?
Quoi, je l'aime pas?
C'est un acteur de quelle
génération? On a d'avoir un génie.
L'interrogez pas.
On a un génie français et tout le monde lui pique.
C'est un acteur jeune.
Ernst Borgnine?
Comment?
Ernst Borgnine?
Non.
C'est un acteur de quelle génération? 40 ans? 50 ans?
Oh, il est. Je voulais sa date de naissance.
Il est vivant, oui.
Ah, il est toujours vivant. Il est né en 1952.
Mais il est connu pour être alcoolique, ce monsieur?
Alors, il est connu pour tout, que je vous dise. Mais...
Mickey Rourke?
Mickey Rourke! Ah, oui, première bonne réponse de Gaël Chacalov. Pourquoi je le souligne? Parce que c'est pas première bonne réponse pour aujourd'hui, c'est première bonne réponse depuis
mais
que vous êtes là.
Vous êtes vraiment une raclure. Alors, vous êtes vraiment une raclure. Car à toutes les émissions, j'ai en moyenne 4-5 bonnes réponses.
C'est pas vrai.
Mais vous n'arrêtez pas de dire que je suis blonde, décérébrée, je sais pas quoi. Du coup, tout le monde le croit.
Non, mais c'est
alors que pas du tout, ça se voit tout de suite.
Pour Thibault Laflèche, qui habite Gradignan, Gironde, pouvez-vous me dire ce que les dames offraient aux chevaliers qui se battaient pour elles dans les tournois au Moyen-Âge?
La virginité?
Un string?
Non. Avant que le tournoi démarre.
Un mouchoir?
Un mouchoir, non.
Leur foulard?
Leur foulard, non.
Leur iPhone?
Un tampax?
C'était un vêtement?
Un vêtement.
Leur gant?
Une partie de vêtement.
Leur gant?
Oui.
Une partie
un
de
bouton.
Vêtement intime?
Un bouton?
Et d'ailleurs, ça a donné une expression qu'on utilise encore aujourd'hui.
Leur jarretière?
Chevalière?
Non.
Leur napperon?
Non. On est au Moyen-Âge, les chevaliers vont se battre, chacun pour une belle, et les femmes pour lesquelles on se battait donnaient au début du tournoi...
Leur bas?
Non.
C'était en dentelle?
C'était en tissu, mais ça pouvait être n'importe quel tissu.
Leur manchon?
Oui, alors leur...
Leur manche?
Leur manche,
oui.
Bonne réponse de Gérard Jugnot et Sébastien Thoen. Et oui. Elles donnaient une manche de leur habit.
Et donc on dit gagner une manche, alors.
Exactement, ça vient de là. Participer à une manche, ou faire la manche aussi,
oui.
D'ailleurs.
Ou le parti en manche.
Quoi? Non, c'est en marche, le parti.
Oh, c'est pareil.
En tout cas, ça vient de là, effectivement.
Et traversé aussi.
Première manche, deuxième manche d'un tournoi. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même chouette de connaître...
Enfin, c'était détachable, les manches. Hein.
Ah bah oui.
Oui, elles n'arrachaient pas la manche.
Si c'était des manches avec des lanières.
Bah, c'est pas vrai, mais c'est comme ça.
Ah, vous imaginez, Roland Garros,
on joue en comprend même plus ce qu'elle dit.
Le SAMU vient d'arriver, ils ont tonné.
Et non, et s'ils se battaient pas, ils se battaient comme un manche?
Ah non, mais en tout cas, ils gagnaient une manche. Oui. C'est de là que vient l'expression. Bonne réponse de Junio et Toen. Une question culturelle pour Claudine Augès qui habite Mazingarbe, c'est dans le Pas-de-Calais. Si vous allez au musée d'Orsay, dans une petite salle du musée d'Orsay, au rez-de-chaussée actuellement, il y a les toilettes, ça peut être, monsieur Junio.
Et à madame d'Acosta. Ouais. Et dès que ça fouille, elle appelle, elle fait l'odouvi.
Bon, la question, là.
Oh, ça va.
Attends, il y en a pas que moins deux qui veut intervenir.
Alors l'autre, elle a trouvé une réponse, maintenant elle sent plus.
Donc il y a une petite pièce.
Une petite pièce.
Alors, au voilà, musée d'Orsay.
Vous rappelez qu'on est au musée d'Orsay, au rez-de-chaussée.
Oui, une petite pièce.
Du musée d'Orsay, il y a une petite pièce.
S'il vous plaît.
Située dans les galeries du rez-de-chaussée. Et là, vous pourrez admirer une quinzaine de photographies en noir et blanc. Des photographies qui représentent Denise Rosereau. Mais qui était Denise Rosereau et qui a pris ses photographies?
Émile Zola.
C'est vu, il y a...
Oui.
Ah, Émile Zola, oui.
C'est la fille d'Émile Zola.
C'est la fille.
Excellente oui. Réponse de Florian Gazan. Absolument.
Ah oui, il l'a photographiée.
Et elle a été reconnue par Alexandrine, d'ailleurs. Parce que c'était la fille adultérine, c'est ça?
C'est la fille adultérine d'Émile Zola, effectivement.
Vous êtes incroyable, Gaëlle. Ouais. Vous devriez fréquenter les plus grands.
Ah ouais. Vous devriez faire un bouquin sur Macron.
Des trucs.
Je peux expliquer à nos auditeurs.
Oui.
Denise Rosereau était effectivement l'enfant qu'Émile Zola a eu avec sa jeune fille au père, puisqu'il a eu des enfants.
C'est sa repasseuse, non?
Oui, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, Émile Zola.
Il a démonté la babysitteuse.
C'est fait la nounou, quoi.
On dirait, on dirait un chef d'entreprise du CAC 40, quoi.
En tout cas, Émile Zola a effectivement trompé sa femme Alexandrine avec la repasseuse, la baby-sitter, la jeune fille au père. Appelez-la comme vous voudrez, mais...
Mais la jeune fille au père, s'ils n'avaient pas d'enfant.
Mais...
Là, la jeune fille au père, mais non, c'est pas ça.
C'est le P-E-R-E.
Jeanne. Jeanne Rosereau, c'était la lingère, très exactement.
Il avait une lingère?
Oui, une lingère.
C'est pas vrai.
Et il a eu un garçon, une fille avec Jeanne Rosereau. La fille, donc, s'appelait Denise. Et ce sont les photos de Denise.
Absolument.
La fille qu'on voit actuellement, effectivement.
Elle est moche, hein.
Au musée d'Orsay. Des photos,
des photos
noires et blancs, évidemment, hein, puisque.
Mais pourquoi?
On était au début de la photographie, mais quand même des photos
prises. Ah, c'est vieux?
Des photos prises par Émile Zola lui-même, bien quand sûr, même, ouais. De sa propre fille adultérine. C'est formidable. Et là où, quand même, Gaëlle Chakelo, je vais la rejoindre parce qu'elle veut le placer depuis tout à l'heure.
Allez, Consuelo.
Mais que vous êtes méchant, c'est fou
là,
quand même.
Là où elle a raison, la Chakelo, c'est qu'effectivement, à la mort d'Émile Zola, là, c'est quand même noble, c'est beau ce qu'a fait la femme d'Émile Zola,
magnifique.
Alexandrine Zola, parce qu'elle a œuvré pour qu'effectivement, les deux enfants finissent par porter le nom de Zola.
Oh,
venant d'une femme cocufiée, il faut quand même le faire.
Ah ouais, voilà. On va lui repasser son linge. Hein.
Ah oui. Si je peux apporter mon obole à la culture générale.
Mais bien sûr, monsieur.
Il y a une avenue Émile Zola et une station de métro Émile Zola.
Oui.
Dans le 15e.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais... Ça. C'est rare un acteur aussi dire. Intelligent et cultivé.
C'est intéressant, ouais.
Incroyable, mais comment tu sais ça, François?
Quand Zola photographiait sa fille, voilà le titre de cet article qui m'a permis de vous poser cette question. Denise, dans l'œil de son père, elle a un joli chapeau là sur la photo qui a été publiée par la presse. Moi, je trouve ça émouvant. Des photos de cette époque, c'est quand même assez rare. On est là, faut le dire, quand même à la fin du 19e siècle, vous voyez, on est dans
120 ans.
Ben oui, c'est quand même des toutes premières photos au fond, et il a photographié ça. Il a photographié son fils aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis que la fille, mais il a aussi fait des photos de son fils.
Qui était à l'ultérin ?
Oui. Il a eu un garçon et une fille avec la lessiveuse. La
lingère.
Avec
la machine à laver la vaisselle.
La lingère.
Et il ne s'est rien passé avec le palefrenier.
Si, mais il n'y a pas eu d'enfant à l'époque, vous savez.
RTL, le livre du jour.
Ah, le livre du jour va nous intéresser, pile poil pour cette Saint-Valentin. Ça s'appelle « Le couple parfait n'existe pas », éloge de l'imperfection amoureuse. C'est publié par Cecilia Como chez Flammarion. Madame Como est spécialiste du couple et aussi de la sexualité dans le couple. Elle est psychanalyste et sexologue. Elle est donc tournée vers celles et ceux qui tentent de rester ensemble malgré les problèmes que peuvent connaître un couple. Et puis, évidemment, elle tente de résoudre les infidélités, le déclin progressif du lien conjugal.
Elle est bien baisée, quoi. Voilà.
Elle est au téléphone, je vous signale quand même.
On perd du temps, là. Dites-le, elle aime bien l'amour, elle aime bien se faire
la
plaisir.
La perte du désir érotique, l'absence de libido sexuelle. Le couple parfait n'existe pas. Et d'ailleurs, Madame Como, dans son livre, cite quelqu'un qui dit que quand même, face à l'adversité, il faut savoir résister et peut-être même rester ensemble.
Patrick Bruel.
Et elle cite quelqu'un qui disait déjà « Un couple digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets. »
Oh,
c'est vrai.
Et d'ailleurs, elle a un peu transformé, elle l'avoue dans le livre, la citation, parce qu'au départ, c'était « Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets. » Et c'est l'extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Les bâtisseurs d'empire » ou « Le Schmurtz ».
Boris Vian.
Boris Vian, bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça, c'est de la culture. Bravo, Gérard. Bonjour, Madame Como.
Bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour à vos grosses têtes. Pour répondre à Sébastien, c'est pas tant que j'aime l'amour, mais j'aime les gens.
C'est pas incompatible, madame.
Non, tout à fait. C'est ce qui m'a mené à ce que je fais.
En tout cas, j'ai deviné que votre couple, à vous, perdurait, puisque, en exergue de votre livre, on peut voir cette phrase. Pour Fred, 19 ans déjà, et je n'ai rien vu passer, dites-vous.
C'est-à-dire c'est une image? C'est une image? Attendez. Non, mais Laurent, on n'allait pas sur ce terrain-là.
Non.
Qui sommes-nous pour juger de sa sexualité?
Vous l'avez fait exprès, Mme Como.
J'ai surtout voulu expliquer aux gens qui... j'entends souvent ces phrases sur la fin du couple programmé, que passer 10 ans, 15 ans, l'infidélité, c'est presque une évidence, la perte de libido aussi. Et de pouvoir dire qu'il y a des couples qui se réinventent, qui utilisent de la créativité, que rien n'est une évidence dans un couple.
Mais attendez, madame, excusez-moi. Pour vous, l'infidélité, c'est la fin du couple?
Ah, pas du tout. Ah bah non. Ah.
Non, c'est le début des emmerdes.
En partie, ça c'est sûr, mais sûrement pas. Bien au contraire, presque, j'ai envie de vous dire, Gaëlle. C'est que j'ai été très surprise de voir que c'était absolument pas la fin des couples. Ça provoque effectivement un grand fracas, mais absolument pas la fin des couples, non.
Et en tout cas, les Français ne sont pas les champions de l'infidélité. Vous citez un sondage IFOP qui nous dit que les plus infidèles sont les Italiens en tête.
Absolument.
Les Espagnols en deux.
Non. Ouais.
Et les Portugais.
Christine.
Oh non.
Et les Allemands en trois.
On n'est pas numéro un.
Ouais. Alors ça, non, on est quatrième.
Sébastien, faut qu'on fasse quelque chose, mon pote.
Pas rester mais comment tu t'es sûr des chiffres? C'est pas évident et tout.
Là, parce que c'est vrai que les sondages qui sont faits, il faut croire ce que les gens vous disent.
Ouais, qui le dit,
absolument.
Ouais.
Alors, ils sont pas forcément fiables, ces sondages-là.
Non, mais on a que ça, de toute façon, pour se repérer. C'est un sondage IFOP de 2014. Bah, effectivement, déjà, il faut le prendre avec des pincettes, mais on n'a rien d'autre parce que, effectivement, ce genre de révélation se fait plutôt dans les cabinets de thérapie ou entre amis, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement secret.
Alors, à part l'infidélité, quelle autre recette avez-vous pour sauver le couple?
Alors, moi, j'ai zéro recette, Gaëlle. C'est tout l'intérêt de mon livre, c'est d'expliquer que vous ne pouvez pas prendre un livre avec des recettes et le plaquer sur votre couple. Ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de faire réfléchir les gens sur leur comportement en couple, en supposant, à raison, souvent d'ailleurs, que leurs questions trouveraient leur réponse. Ouais, bon, évidemment, j'apporte quelques réponses dues à l'expérience et l'expertise, mais c'est surtout que je suis assez atterrée de voir qu'on veut prendre les gens en main, un peu pour tout d'ailleurs, actuellement, et de leur dire, voilà, vous voulez un couple qui marche, ben écoutez, c'est pas compliqué, suivez ce guide et ça va aller.
Moi j'ai une question, vous avez lu le livre de Vincent Cerutti, là, 50 ans d'échangisme?
Pas
parce que ça, c'est une solution. Hein.
N'importe quoi.
Si, si, 50 ans échangistes à Paris et en banlieue. J'ai oublié la fin du titre. Non, de Vincent Cerruti.
Est-ce que la vraie question, est-ce que la libido, quand ça s'arrête, il y a un moyen de la relancer?
Ce qu'on se rend compte quand même dans les couples quand on creuse, c'est que les attentes vis-à-vis du couple, elles sont nombreuses, mais surtout, elles sont aussi souvent contradictoires. C'est ça qui perturbe un peu les choses, c'est qu'on recherche le confort de la relation, mais aussi son impétuosité.
Alors, de toute façon,
la sécurité, mais aussi l'imprévu.
C'est dur quand on est jeune, connu, riche, comme Florian Gazan.
Oui, c'est beaucoup plus dur.
Bah oui, c'est là vous parlez au gueux, là, mais pensez
de
à nous.
De toute façon, ce qu'il faut dire, et c'est quand même ça la leçon du livre aussi, c'est que, en réalité, le couple parfait, c'est celui qui accepte son imperfection.
Absolument, c'est accepter l'idée que toutes nos attentes ne vont pas trouver satisfaction au sein du couple.
Et voilà.
Mais s'il y en a qu'un sur deux qui l'accepte, ça marche ?
À moitié.
En tout cas, je voudrais dire un mot sur la pièce de Vian que moi je ne connaissais pas, et bravo Gérard Jugnot, parce que c'est vrai que c'est dans cette pièce que vous avez emprunté la fameuse phrase sur le fait qu'il ne faut pas fuir.
Mais il y a le Schmurtz, c'est un personnage bondé.
En cas de problème, et c'est vrai que les bâtisseurs d'Empire ou le Schmurtz, c'est une pièce de théâtre écrite par Boris Vian en 1959, donc pas longtemps avant sa mort. Et alors, le résumé de la pièce, moi, que je ne connaissais pas, est absolument hallucinant. C'est une famille qui est peu à peu chassée de sa propre maison par un bruit étrange et mystérieux. Et ils vivent dans une tour. Et en fait, à chaque fois qu'ils entendent le bruit, ils déménagent à l'étage au-dessus. Et à chaque fois, ils emportent un peu moins de matériel avec eux. Et la fille, qui s'appelle Zénobie, remarque qu'il y a un homme en loque, une espèce de victime de la guerre, qui est là à chaque fois dans chaque appartement dans lequel ils emménagent. Et qui devient un peu, on va dire, le souffre-douleur de la famille. Et plus il monte, c'est lui le Schmurtz, c'est exactement, et plus il monte dans la tour, à chaque fois qu'il change, plus à chaque fois l'appartement se réduit en superficie, et plus le pauvre Schmurtz va en prendre plein la gueule. Et vous savez qui était à la création de cette pièce, qui jouait cette fameuse Zénobie? C'était Dany Saval, la femme de Michel Drucker. Ah oui. Et le père de la famille était joué par Henri Virlejeu. La pièce a été créée. Je trouve que peut-être il faudrait la rejouer parce que
j'ai des copains qui l'avaient monté.
Et c'était bien.
C'était intéressant.
Ouais. Ah ouais, les bâtisseurs
d'Empire. Mais c'est une métaphore de l'amour, c'est ça?
Je sais pas si c'est une métaphore de l'amour, mais en tout cas, c'est une pièce drôlement originale, je trouve. Les bâtisseurs d'Empire ou le Schmurtz, signé Boris Vian, et la culture de Monsieur Jugnot nous a permis d'économiser 300 euros. Une question que me réclament les grosses têtes depuis le début de cette émission.
Oui. Valentin.
Le curling.
Qui était Saint-Valentin? Ce sera une question pour Selma Viduzin qui habite Bourges. Je vais vous le raconter un
c'était
peu.
C'était un pape?
Qui il était? Non, pas du tout.
Ah non, c'était Valentin.
Valentin, il faut le savoir, c'est quelqu'un qui...
Il était désossé.
Ah non, il n'était pas désossé.
Ah, Valentin le désossé, tu connais ça?
Et remets-moi une Suze.
Ludo, tu nous remets la même, s'il te plaît.
Tu nous remets la petite sœur.
Mais sans glace cette fois, hein.
Vous pouvez pas parler normalement, Christine.
Non, mais
c'était un pote à la goulue.
Et c'est Philippe Clay qui l'a joué, Valentin le désossé, au cinéma, dans un film de Jean Renoir, si ma mémoire est bonne.
Franche Cancan.
Voilà.
Ah, je prends la Monaco, moi, plutôt.
French Cancan. Mais là, rien à voir. Mon Valentin, moi, là, on est au début du christianisme, alors que toute l'Europe n'est pas encore convertie. Un empereur qui s'appelle Claude II, le gothique, qui n'aime pas les chrétiens, et qui veut interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre.
Et
il apprend qu'il y a un curé qui s'appelle Valentin, un prêtre, qui lui continue à faire des mariages. Alors évidemment, il fait arrêter ce Valentin parce qu'il veut pas que les gens se marient. Valentin refuse de se soumettre à la volonté de l'empereur en continuant à faire des mariages et il emprisonne Valentin. Et Valentin va hélas être exécuté quelques semaines plus tard, et précisément le 14 février 269, des légionnaires romains vont couper la tête à Valentin de Terni, ou Valentin de Rome, c'était son nom. Voilà pourquoi la date du 14 février.
Terni, c'est une ville à côté de Rome.
Oui. Hein voilà pourquoi son nom est resté associé à cette date du 14 février. Il a été exécuté, décapité le 14 février 269. Mais pour quelle raison exacte a-t-il été guillotiné? Pas seulement parce qu'il continuait à être, on va dire, un prêtre qui mariait les autres, parce que ça, il était déjà en prison.
C'est pour ça
qu'il avait une relation.
C'est les fêtes des amoureux.
Pardon?
C'est de là que vient la fête des amoureux.
Oui, il était amoureux de quelqu'un, lui aussi. Il avait une relation amoureuse.
Il s'est tapé le presbytère.
Alors, non, mais effectivement, il a eu une relation amoureuse.
Il était averti
avec la fille d'Émile Zola.
La femme de Claude II.
Avec un curé.
Alors, avec un curé, non.
Une bonne sœur.
Une bonne sœur, non. Alors, c'est pas seulement avec qui et de qui il était amoureux, mais il a évidemment fait un miracle. Pour devenir saint, faut faire un miracle.
Ah, il est devenu femme.
Non, il est dans sa geôle. Bon, il est en prison.
Il a des petits petons.
Il avait de tout petits petons. Valentin, Valentin, il avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons.
C'est ça?
Tontaine. Oui, je vous fais plaisir, raison, monsieur.
Valentine. Valentine, il a repeint sa cellule?
J'ai une bonne réponse. Oui, c'est la...
Non, il apporte pas sa cellule.
Ah, mais il était en cellule, hein, il était en cellule, et donc.
Alors, il est en prison.
Et c'est là où il tombe amoureux du geôlier.
Il y a un bâton. Geôlier.
Le bourreau, le geôlier. Le bourreau.
Non, mais pas loin.
Ah, de la fille du geôlier.
La fille du geôlier. Bon, alors là, on avance.
Oui.
Mais alors, elle a une particularité, cette fille du geôlier.
Elle est énorme bite.
Elle a un handicap physique. Elle a un handicap
physique.
Elle
marche pas.
Il va le faire disparaître.
Exactement.
Elle a un bec.
Elle
a un pied beau.
Elle est aveugle.
Elle est aveugle. Et il va lui.
C'est pour ça.
Elle est aveugle et il va lui faire retrouver la vue.
Ah ouais.
Oh, génial.
Et là, elle se barre en courant après.
Je crois que l'amour rend aveugle, donc je comprends.
Voilà. Julia déclare maintenant, je vois le monde tel que vous me l'avez décrit. Car Julia et Valentin étaient amoureux en prison. C'était la fille du geôlier. Et alors là, évidemment, Claude II, le gothique, il n'a pas du tout apprécié cette histoire et il a ordonné sur le champ l'exécution de Valentin, qui fut donc décapité sur la voie Flaminia à Rome à l'époque, le 14 février 269.
Et la tête a été envoyée par Interflora.
Voilà la vraie histoire de Valentin.
C'était pas le désossé, c'était le découpé.
J'ai une question maintenant pour Mehdi Aziki, qui habite Pipriac, en Ille-et-Vilaine. Retrouverez-vous le nom de ce compositeur mort à Vienne en 1787, qui a une rue près de l'Opéra de Paris et un cratère sur la planète Mercure?
Salieri.
Non. Vous savez que j'ai eu cette idée de question parce que je suis passé par là hier ou ce week-end et je dis tiens, ça c'est marrant qu'ils aient mis une rue juste derrière l'Opéra Garnier pour ce compositeur.
Purcell.
Non.
Haïn.
Un musicien de quelle époque?
Ah bah, il est mort en 1787, il est forcément de la même époque, vous voyez.
Albinoni?
Albinoni, non.
Il est très connu.
Litz.
Italien?
Italien, non.
Il est mort à Vienne, mais il était autrichien?
Ah bah oui, il était...
La liste.
Schubert.
Il était autrichien, oui.
Capucine?
Capucine, non.
Brahms?
Brahms, non.
Est-ce que c'est fait de la musique baroque?
Mehdi Aziki va toucher 300 euros.
Une seconde.
Et puis
Vivaldi.
Voilà.
Vivaldi?
Mais non, pas Vivaldi.
Franz Liszt.
Il est italien, Vivaldi.
Rossini.
Un autrichien, je vous ai dit.
Bah, un autrichien, un autrichien italien. Un autrichien compositeur de grands opéras.
Oui. Enfin, vous savez, il est né en Bavière, mais à l'époque...
Weber?
Pardon.
Weber?
Weber, non.
Donou?
Non. Il a écrit Orfeo et... là, je vous parle d'opéra hein, qu'il a composé. Orfeo et Eurydice, Alceste, Iphigénie en Olyde, Iphigénie en Tauride.
Ouh là là.
C'est un peu l'équivalent de Martine, mais pour les opéras, quoi.
Mais surtout, il est connu, je vous dis, pour la fameuse bataille qui a opposé...
Hernani?
Deux clans, non, pas Hernani.
C'est pas Wagner.
Mais non, c'est pas Wagner.
Mais quelle, la bataille d'Hernani?
Mais enfin, écoutez, ça n'a rien à voir avec la bataille d'Hernani.
Mais enfin...
Ça, c'est Victor Hugo, Hernani.
Mais oui. Vous dire la bataille d'Hernani.
C'est Junio qui a dit Hernani, c'est pas moi. Moi, je réponds complètement aux questions bêtes.
Okay.
Ça se termine par R.
Non, monsieur Junio.
Sans une syllabe?
Je vois bien tous les efforts que vous faites, mon bon Gérard. Mais.
Ça, au moins, ça se termine par une lettre.
Le début du prénom, si on a le prénom, on va trouver, c'est ça, Laurent?
Les prénoms vous diront rien. Christophe, Willibald, Ritter, Chevalier, Fon.
Et la Spalès.
Non.
La dernière lettre de son nom de famille.
Ah, bah, y a très peu de lettres dans son nom.
Liste.
C'est
non.
Il y a combien de lettres
hein? Ça se dit d'un coup, vous voyez.
Berne.
Non.
Berne.
Dans 30 secondes, on va dépenser 300 euros.
Ah, il y en a
euros.
Qui se la racontent au deuxième rang, là.
Ah oui, il y a déjà une
lettre. Il a trouvé.
Si c'est pour moi sortir Yves Lecoq.
Karl-Marie von Weber.
Non, vous allez avoir honte, vous avez dit.
Hutt.
Von Weber.
Non.
Blut. James Blunt.
Non.
Gluck.
Oui. Bonne réponse de François Berléand, c'est Gluck. Aidé par Gérard Junior.
Vous l'avez?
Gluck.
Je vous peine évidemment vous parler du compositeur opposé à Gluck, parce qu'effectivement, il y a eu une querelle à une époque entre l'opéra, on va dire, à la française et l'opéra à l'italienne, et on a appelé ça la querelle des gluckistes, vous voyez, contre les, alors j'ose même pas, non, je vous
les verdistes, hein.
Je vais vous le dire, mais retenez-le pour la prochaine fois, contre les piscinistes.
Alors
les piscinistes, mon père travaillait avec les piscinistes.
Les piscinistes,
ah, c'est Deligny, l'opéra de Deligny.
Mais non.
C'est des joyaux,
oui. Les piscinistes. Il y a une rue, là, dans le 16e.
Eh ben oui, bravo, parce qu'il y a un compositeur.
Mon père travaillait avec Piccini.
Compositeur qui s'appelait Niccolo Piccini. Et donc, lui, il était évidemment partisan de l'opéra à l'italienne, alors que Gluck était partisan de l'opéra à la française. Et donc, c'était une querelle très célèbre entre les gluckistes et les piccinistes. Voilà pour votre culture musicale.
Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL.
Thomas est au téléphone depuis Albi dans le Tarn. Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur Gouraud.
C'est bien moi.
Eh bien oui, c'est bien vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur Gouraud ?
Je suis chef de réception dans un hôtel à Albi.
Ah très bien, un bel hôtel
à
Albi.
Quel hôtel ? Formule 1.
Ouais. Ouais, non, Hôtel Mercure à Albi.
Ah ouais, respect.
Quelle température il fait à l'hôtel
de, je suis parrain de la ville d'Albi.
C'est pas vrai.
Oui, si. On dit pas c'est pas vrai, dis tu te trompes. Non, c'est ma grand-mère qui disait ça. Non, c'est vrai, je suis parrain.
Quand on passera à Albi, on viendra vous voir à l'hôtel, Thomas. Mais en attendant, c'est vous qui peut-être allez partir dans un magnifique hôtel, le château de Puisaye. Ah, c'est un bel hôtel, le château de Puisaye, dans le Morgon-Beaujolais, en Bourgogne. C'est un château 4 étoiles, quand même. Non, magnifique, à 40 minutes de Lyon, au cœur du Beaujolais. Une chambre vous est déjà réservée. Vous pourrez évidemment visiter les grands domaines viticoles.
Je le connais.
Et puis, il y a une suite duplex qui vous sera
réservée. Il y a un mur à trous, il y a tout. Hein.
C'est quoi un mur à trous?
Vous savez pas ce que c'est un mur à trous?
Bah, non,
vous savez pas ce que c'est un mur à trous?
Bah non.
Eh bien, explique, François.
Les glorioles.
Non, le château a des tourelles.
Tes premiers castings, c'était comment? Tes premiers castings?
On pourra plus bosser après cette émission, c'est horrible.
Une grande cour d'honneur, une piscine extérieure, un tennis, un restaurant gastronomique. Allez voir sur le site internet château-pizet.com, Thomas, d'accord?
Eh bien, j'irai voir.
Mais d'abord, misez sur la bonne grosse tête, celle qui, à votre avis, a mieux retenu les noms qui ont fait l'actualité ce week-end. À votre avis.
Et pas dans
alors,
la
j'ai
merde.
Cru comprendre qu'il y avait Monsieur Gazan avec vous.
Oui.
Ah,
oui.
Ah, il faut pas exagérer. Hein.
Vous avez cru comprendre, vraiment. Hein.
Alors, attention, parce qu'il y a
donc
pas que Gazan.
Monsieur Florian Gazan.
Ah. Alors, on va voir tout de suite.
Bon choix.
On va demander à Florian Gazan tout de suite s'il sait qui est Olivier Dubois.
Olivier Dubois.
Voilà. Ça commence mal, monsieur.
Quand tu répètes le nom, ça sent pas bon.
Ouais, alors je connais Léo Dubois, c'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais.
Vous êtes éliminé, monsieur Gazan. Olivier Dubois, le correspondant de Libération au Mali, qui a été enlevé le 8 avril.
En Mali, oui.
Pris en otage et enlevé, et toujours retenu. Et on dit au Mali, d'ailleurs, on sait pas si il est encore au Mali actuellement, mais en tout cas, il a été enlevé au Mali. Vous êtes éliminé, monsieur Gazan. Thomas, reste la possibilité de gagner 200 euros, à voir mieux choisir parmi les 5 autres grosses têtes.
Dans l'ordre, qui est le dernier?
Ah, le dernier, ce sera Toen.
Ah, j'aime beaucoup Toen en plus.
Mais c'est rien.
Alors,
on s'en fout qu'il sache rien, il est le dernier.
Je choisis Sébastien Toen quand même.
Eh ben voilà.
T'es un gagnant, Serge.
À moi d'éliminer tous les autres. On va commencer par Gaël Tchakalov.
Allez, il va se faire plaisir là. Allez.
Gaël Tchakalov, qui est Rémi Monde.
Oh, c'est facile. Franchement.
Rémi Monde, donc j'imagine que c'est un sportif.
Non.
Mais non.
Non.
Monsieur Junio, je vous vois. Hein.
Mais non, j'ai...
C'est un chauffeur.
Non.
Mais non. C'est un conducteur automobile.
Mais non.
Vous êtes éliminé. Rémi Monde est le coordinateur de l'opération Convoi de la Liberté.
Ah, pardon.
Dont on parle depuis plusieurs jours. Vous voyez,
tu ne t'intéresses pas aux pauvres.
Ça t'intéresse à rien.
Gérard... C'est les riches qui t'intéressent. Mais c'est pas eux qui font le monde. C'est pas ces gens-là qui font le monde. Aujourd'hui, le monde, il est sur Internet, hein, avec les gilets jaunes.
C'est Gérard Junio, pouvez-vous me dire, cher Gérard Junio, qui est Nairo Quintana?
Oh, c'est facile. Voilà, même Michel Blanc répondrait.
Ouais.
C'est un sportif que, aux Jeux Olympiques qui a fait du jonglage.
Du jonglage aux Jeux Olympiques, oui. C'est un cycliste colombien qui vient de remporter le Tour de Provence devant Julien Alaphilippe. Quintana, vous êtes éliminé, Gérard Junio. Christine Bravo, qui est Frédéric Bourali.
Il n'a rien à voir avec les skieurs et les Jeux Olympiques.
Non, c'est vrai.
Ah
non.
Voilà, il est parti en vacances.
C'est ça. Bah,
Oui, c'est la zone 1. Hein.
Bah, c'est vrai qu'il est déjà parti en vacances dans sa vie.
Oui, il est en zone 1 en
c'est
plus.
C'est une bonne réponse.
Mais justement, réponse. Il est parti en vacances et il est parvenu et on le cherche.
Frédéric Bourali est l'acteur qui joue dans Scène de ménage.
Et pour l'épilepsie. Oh
là, le rôle de José, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Non, de l'épilepsie.
Ah. Et il est pas... l'épileptique, bah,
c'est la Saint-Valentin ou c'est la journée mondiale de l'épilepsie?
Les deux. Il est parrain de l'association Épilepsie France.
Comment voulez-vous qu'on sache un truc pareil?
Parce que c'est une page dans le Parisien aujourd'hui, vous voyez, Christine, bravo.
Moi, j'ai beaucoup d'épileptiques dans ma famille. Et
Ben, c'est leur journée, appelez-les.
Ben voilà.
Monsieur Berléand.
Avant de répondre à la question.
Oui.
Si personne ne répond.
Oui.
Il a gagné.
Ah, si personne ne répond, il a gagné.
Il est malin, Berléand. Il sait qu'il va rien capter, donc il va faire genre « j'ai fait exprès ». J'ai fait exprès, je savais très bien qui était...
Qui est Andy Farrell?
Andy Farrell, c'est un chanteur.
Non, tu confonds avec Will Farrell.
Ah oui.
Un acteur. Un acteur.
Andy Farrell, ah oui.
Il me semblait que vous étiez doué en rugby, monsieur.
Oh putain, Andy Farrell, pardon. Bien
alors
sûr. Bah oui, bien sûr. C'est
un basketteur.
C'est le sélectionneur de l'équipe d'Irlande.
Excellente réponse de François Berléand.
Oh la vache.
Antoine, t'es dans la nasse.
Ah, mais non, c'est
Toen. Toen qui est Stéphane Ravier.
Ah bah, déjà d'une, c'est mon sosie.
Exact.
Hallucinant.
Tout le monde dit qu'il vous ressemble.
Et inversement. Les gens, ils disent, ouais, t'es le sosie de Toen.
Et c'est qui, alors, Stéphane Ravier?
C'est le gars du Renouveau National qui a rejoint Éric Zemmour pour sauver la France.
Bravo.
Bonne réponse de Sébastien Toen. Thomas, vous avez bien fait, vous voulez miser sur Toen, il a su répondre. Mais attention, ça n'est pas gagné encore, puisqu'il s'agit d'un duel. Il m'en reste deux. Berléand contre Toen.
Ah bah c'est polytechnique contre le collège de
France. Monsieur François Berléand, pouvez-vous me dire qui est Maurizio Pochettino?
Oh bah c'est l'entraîneur de PSG.
Exact, mais tout le monde ne le sait pas, bravo.
Alors,
quel mépris. Quel mépris dans ta réponse.
Ah oui.
Allez-y Laurent, c'est pas fini.
C'est pas fini, effectivement, monsieur Toen, qui est Shimon Hayut.
Ah, Shimon Hayut, c'est, je crois, Shimon Hayut. C'est pas l'enfant que François avec sa gouvernante, là. C'est le mec qui est dans l'arnaque Tinder sur Netflix, le
excellente
documentaire.
Excellente réponse, c'est l'arnaqueur de Tinder. Un vrai duel. Monsieur Berléand, c'est Marco Mouli.
Marco Mouli.
Oui, Marco Mouli.
Ben oui.
Marco François. Mouli.
Marco c'est... Mouli.
C'est qui a fait du café, c'est du café Mouli.
Ça y est, je vous ai fait gagner, Thomas ouais Berléand est éliminé.
Moi je sais. Et moi je sais. Marco Mouli, c'est un des
bah, accusés c'est le concurrent de l'autre, la taxe
carbone.
En fait,
hein. L'arnaque à la taxe carbone.
C'est un autre escroc qui voilà fait lui aussi un carton sur Netflix. Effectivement, lui, c'était pour la taxe carbone.
Bah, tu aimes ça, mais attends, de quoi tu vas.
Monsieur Toen vous fait gagner 200 euros, bravo. Thomas, bravo.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Gaël Chakalov, Christine Bravo, François Berléand, Gérard Jugnot, Florian Gazan et Sébastien Toen. Ah, une question pour Odette Lefebvre, question culturelle. Elle habite Méribel, Mme Lefebvre. Elle a peut-être une chance de gagner un chèque RTL. J'aimerais que vous retrouviez le nom de celui qui, affecté par la mort de sa fille Betty un mois plus tôt, s'est éteint à Londres le 3 septembre 1658. Ah oui, on est au XVIIe siècle. Hein. Ouais. Là, c'est de la culture, c'est de l'histoire. Ouais. Ouais. Un homme, donc, qui, affecté par la mort de sa fille Betty un mois plus tôt, est mort d'une septicémie face à une infection urinaire facilitée par la malaria à l'époque. Vous rendez compte,
on savait s'amuser à l'époque.
En quelle année?
Ah bah,
1658.
Je vous ai dit 1658.
C'était un anglais?
Ah oui, c'était un anglais.
Auteur de théâtre, dramaturge?
Non, pas roman, dramaturge.
Romancier?
Politique, oui.
Cromwell?
Et c'est Cromwell. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça c'est bien, mon bon Gérard.
C'est bien.
Oh là là, le bol. Le bol.
J'aime bien mon bon Gérard quand c'est vous dingue faites...
Dès qu'il appuie sur la dialyse, ça fonctionne.
Pour Valérie Lopez, qui habite Revin dans les Ardennes, il y a pile 50 ans, comptez bien, il y a 50 ans, le 14 février 1972. C'était la première représentation d'une comédie musicale dans laquelle Danny Zuko et Sandy Dombrowski étaient amoureux.
R. Grise.
Grise. Bonne réponse de Florian Gazan. Et c'était pas encore, évidemment, la version cinématographique avec John Travolta et Olivia Newton-John. Hein, non, on connaît pas d'ailleurs les acteurs. Carole Demas qui jouait Sandy Dombrowski et Barry Boswick. On est à Broadway, hein, évidemment. Et le 14 février 1972, il y a 50 ans, était créé Grise. Le film est sorti 6 ans après la création de la comédie musicale.
Ah, ouais, on serait bien à New York, hein, mon Lolo, tous les deux.
Vous m'appelez pas mon Lolo. J'ai vu l'état des vôtres. J'ai un extrait de Grise. Il y a pile 50 ans, regardez, elle revit la Tchakalov. Ah, vous avez emballé là-dessus, hein, Tchakalov.
Oh bah, non, j'ai pas emballé, j'étais toute petite.
Ouais. Grise, ça veut dire brillantine, c'est ça?
C'est ça, exactement, monsieur Junior, vous pouvez pas connaître. Pour Sophie Le Gaillard, la question suivante, qui habite Saint-Martin d'Hyères, dans l'Isère. Beaucoup de gens vont depuis quelques jours à la Tour Montparnasse. Et pour quelle raison?
Ah, pour voir le projet de la nouvelle tour qu'on construit
pas
à Paris.
Du tout.
Non.
Pour voir Paris.
Non. Et d'ailleurs,
ils ont rouvert le 56e étage et un nouveau bar, non?
Ah non, mais c'est vrai que ça se passe tout en haut et c'est au 59e étage.
Il n'y a pas de patinoire. Il y a une patinoire.
Une patinoire.
Tout en haut.
Tout en haut. Effectivement, bonne réponse de Christine. Depuis le 5 février dernier, il y a quelques jours, on a rouvert la patinoire la plus haute de Paris, au sommet de la
Tour. En plein air, non?
Oui, en plein air, bien sûr.
Faut pas se louper dans le virage, hein.
À 210 mètres de hauteur, la patinoire génial. Avec une vue évidemment à 360 degrés.
J'espère qu'il y a des barrières.
À peine.
On a une vue sur le Val-de-Marne incroyable.
Faut vraiment le faire.
Non mais c'est une super vue, c'est jusqu'au dimanche 6 mars. Si vous voulez profiter de la patinoire en haut de la tour Montparnasse. Non mais c'est génial quand même, en haut de la tour, à 210 mètres d'altitude, un espace quand même de 230 mètres carrés de glisse. Ouais. Alors en plus il y a un bar d'altitude avec des chocolats chauds, du vin chaud, des gaufres sucrées. Oui, un bar d'altitude.
Il y a un téléphérique pour monter aussi, non?
Pourquoi ça vous fait rire, Berléand?
200 mètres c'est quand même pas bar d'altitude.
Bah oui. On peut monter en varap.
Il y a des gaufres, il y a du chocolat chaud, il y a du vin. Oh, à propos de gaufres, vous avez vu la polémique en Belgique?
Non, qu'est-ce qu'il y a?
Les Belges, Bruxelles, Rouen sont pas contents. Parce que Angèle, la chanteuse Angèle, qui est belge.
Ouais. Bruxelles, je t'aime.
Elle chante Bruxelles, je t'aime. Elle chante plusieurs fois, pas une fois Bruxelles, je t'aime, elle chante deux fois Bruxelles.
Elle le fait en flamand aussi.
Et elle l'a chanté sur une gaufre aux Victoires de la musique.
Mais non, ils ont fait ça
sur une gaufre.
Vous savez qu'à la télévision, on a toujours des idées de mise en scène magnifiques. Donc elle était assise sur une gaufre.
Sauf que la gaufre était liégeoise.
Elle est pas carrée.
Donc elle était caramélisée,
Elle n'était pas carrée.
Mais c'est vrai qu'elle est meilleure, la gaufre liégeoise.
Ah non, mais ça se fait pas. Tu chantes pas Bruxelles, je t'aime sur une gaufre liégeoise.
Elle aurait pu se faire un califourchon sur une frite.
Oui. Ah. Ou dans une moule géante, une grande moule, une énorme moule de chez Lyon de Bruxelles.
Ça a dû la mannequin piece.
Moi, j'aurais préféré une fricadelle tant qu'à faire.
Ça a dû la perturber parce que c'est vrai que c'était pas le même son que sur le disque, hein, dites donc. Ah, les chanteurs en live, c'est pas pareil. Ah,
Non, mais la gaufre liégeoise est meilleure que la gaufre bruxelloise. Ah bah, je suis désolé.
Non, c'est vrai, c'est meilleur.
Il y a deux écoles, mon pote.
Il a raison, gros.
Ah bah, il y a deux écoles, d'accord.
On dit pas mon pote à François Berléand.
Bah si, maintenant, la gaufre bruxelloise, tu peux mettre du Nutella, pas la liégeoise.
Ah bon, pourquoi?
Ah non, parce qu'elle
que la liégeoise, elle a son petit goût.
Elle a son truc de caramel, mais c'est meilleur.
Elle est sucrée, elle est bonne.
Quelle est la liégeoise?
Elle est orange. Elle est orange.
Ah, la grosse gaufre rectangulaire, elle est française.
Ah, elle est jeune.
Mais dans quel état vous êtes, Christine?
Oh putain, le vin d'honneur, il a déjà commencé pour le mariage.
Je sais pas, je vais passer un scanner tout à l'heure, je crois que je perds des neurones. Alors,
Eh ben, il doit plus rester beaucoup. Hein.
Là, on va voir.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Marie est au téléphone pour jouer avec nous aux fake news. Elle habite en Allemagne, Marie.
Oh,
bonjour.
La chance,
bonjour, Laurent.
À Gartoff, c'est ça?
Oh, yeah, yeah, non,
bonjour,
yeah,
Marie.
Yeah, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites?
Bienvenue, Willkommen. Revenez, revenez, vous nous manquez, les Allemands, revenez. On était tellement bien, putain.
Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Marie?
Eh bien, je tiens un gîte avec mon mari depuis 30 ans.
Ah, quand même, dites donc.
À une gîte.
À une gîte.
Oui, bah avec des appartements, on est pavillon, voilà.
À Gartow, même?
Oui, c'est un petit village entre Hambourg, Berlin et Hanovre.
Oh, et bon, mais, Marie, votre mari est allemand?
Oui.
Ah, bah, voilà.
Ah, voilà. Je cherchais.
Il y en a qui sont rentrés avec eux, alors.
Marie, ne les écoutez pas.
C'est le casque de votre mari à la maison.
Ça fait quand même
60... Je peux vous le rendre, si vous voulez.
Non, mais ça fait 60 ans. Écoutez, franchement, François Mitterrand a pris la main d'Helmut Kohl. On est deux peuples aujourd'hui
bien
unis.
Sûr, bien sûr.
Exactement, exactement. Bien sûr.
Et super, le hard rock, les scorpions, super groupe, là. Bienvenue à vous, Marie.
Bonjour.
Vous appelez pourquoi d'ailleurs?
Comment il s'appelle votre gîte?
Bah, il s'appelle Ferienhof, Kunstock, ça veut dire village vacances.
Il y a des petits coins, on peut se mettre en cuir avec un bonnet nazi. Et puis on peut se fouetter tranquillement entre copains.
Et ben vous allez changer le temps d'une semaine, c'est vous qui allez être invité dans un gîte, enfin mieux qu'un gîte, chez Pierre et Vacances, Marie. Ah ouais, ouais.
Vous êtes sûr que vous voulez répondre, du coup?
On fait lui autre chose, Laurent, elle a déjà un gîte.
Non, mais là, c'est pour 4 personnes. Elle va pouvoir venir chez nous en France, choisir une des 158 destinations à la montagne ou à la mer de Pierre et Vacances.
Bah, Strasbourg.
Il y a à chaque fois une vue imprenable. Très belle semaine de vacances pour vous et 3 personnes de votre choix. Grâce à Pierre et Vacances, vous choisirez votre...
Il y en a un super à Vichy.
Vous choisirez... Non, mais... Non, mais... J'ai vraiment l'impression d'entendre Bénichou.
Ben c'est ça, hein. C'est incroyable.
Mais Marie, laissez finir, Laurent.
Vous choisirez votre destination sur pierreetvacances.com, à condition, Marie, évidemment, de repérer la bonne information. Ça ne devrait pas être compliqué. La bonne info parmi toutes les fake news. On commence tout de suite par Christine Bravo.
Reprise de l'émission de Karine Le Marchand ce soir sur M6, le Prime rebaptisé Zemmour est dans le pré démarrera par un tuto réalisé par Éric Zemmour et Sarah Knafo expliquant aux agriculteurs comment faire pour toucher la prime de 10 000 euros.
François Berléand.
Patinage artistique aux Jeux Olympiques, le couple russe ayant été battu par le couple français, Vladimir Poutine a décidé d'envahir Albertville.
Gérard Jugnot.
Victoire de la musique, la chanteuse Barbara Pravi a obtenu la victoire de la révélation féminine. Pour la victoire de la révélation masculine, c'est Pierre-Jean Chalençon qui a gagné avec sa nouvelle chanson « Donne-moi ton QR code
». Gaël Chakalov.
En avril prochain, une nouvelle prison va être inaugurée en Suisse. Afin de la tester, 700 habitants se sont portés volontaires pour y être enfermés 4 jours.
Florian Gazan.
Oui, Anne Hidalgo et Christiane Taubira ont déclaré toutes les deux « Rien ne m'arrêtera ». Vu le sens dans lequel leur progression s'effectue dans les sondages, leurs spécialistes en communication leur ont conseillé d'arrêter de dire « Rien ne m'arrêtera
». Et on termine par Sébastien Thoen.
Pour son meeting au Zénith de Paris, Valérie Pécresse avait choisi un micro Madonna. Gérald Darmanin a déclaré « Heureusement, elle s'est arrêtée là et n'a pas jeté sa petite culotte dans le public ».
À votre avis, qui a dit la vérité, Marie?
La prison en Suisse.
Ouais. La prison en Suisse, vous pensez?
Bah, oui. Oui, moi aussi. Bah,
vous partez chez Pierre et Vacances, ouais. Bravo. Eh oui. C'est assez... C'est assez incroyable, il y a 700 Suisses qui ont accepté à Zurich de tester la prison. Pendant 4 jours, ils vont être enfermés volontairement dans la prison pour tester le nouvel établissement pénitentiaire. Près de 700 Zurichois se sont portés volontaires. Ça paraît incroyable.
Il y a Balkany qui fait ça à la santé en ce moment, non?
Non, mais c'est vrai, c'est fou. Non, mais ce sera une nouvelle prison dans le sens où les candidats pourront opter pour une cellule fumeur, par exemple.
Ah, c'est pas vrai.
Ou faire le choix.
Les candidats, pourquoi c'est un jeu?
Mais ils sont payés pour faire ça ou pas?
Ah non, ils testent bénévolement, mais ils pourront avoir le choix entre des plats classiques ou végétariens, vous voyez. Leurs allergies seront prises en considération.
Putain, c'est super.
Et leurs intolérances potentielles, c'est presque mieux que chez Pierre et Vacances, dites donc.
Vous voulez parler là, Marie?
Peter Rundferien.
Alors, je voudrais quand même, monsieur Junior, rectifier. Vous avez mal donné le titre de la chanson de Pierre-Jean Chalençon.
C'est Donne-moi ton QR code?
Qui existe vraiment, non, c'est Donne-moi ton QR code.
Eh oui.
Vous avez enchaîné, vous voyez.
Ah oui, mais il n'y avait pas de...
Virgule.
Ponctuation.
Y a, parfois, il n'y a pas de virgule après le cul, les gens sont propres, vous savez.
C'est horrible, ce que tu dis.
Parce que vous avez des QR codes.
On a la chanson de...
J'espère qu'on l'a.
On a la chanson de Chalençon.
Il va toucher ça. Donne-moi ton QR code, je te donnerai le mien.
Chacun sa méthode. Pas. Il est homosexuel?
Non!
Non! Il faut qu'il le devienne alors, hein! C'est dommage, autant de talent!
Donne-moi ton cul, R-code! Voilà, c'est.
C'est qui R-code? J'ai rien compris.
C'est pour le jeu de mots, vous voyez.
Ah, vous vous souvenez qu'il était à un dîner avec nous et...
Ah non, moi j'ai jamais dîné avec...
Si
non.
Au Fouquet's avec le chanteur.
Avec Charles Trenet?
Oui.
Ah bah dites donc, c'est il y a 40 ans, comment vous voulez que je me souvienne qu'il y avait Chalençon?
Eh ben moi je m'en souviens, il y avait Chalençon.
Mais je connaissais pas, donc je savais pas que c'était Chalençon. Bah,
c'était la copine à Trenet.
Qu'est-ce qu'il faisait avec Trenet?
C'était la copine à Trenet.
Alors, dis pas la copine à traîner. On dit un ami à traîner.
Une relation proche.
Alors, c'était qui la traînée alors?
C'était elle. Voilà. Alors, non, mais c'est vrai. Alors là, je reconnais, ça date des années 90, donc je reconnais que je me souviens très bien d'un déjeuner avec vous et Charles Trenet.
Et Chalençon.
Mais je ne le connaissais pas, Chalençon.
Bah, moi non plus, je ne connaissais pas, mais il avait un bicorne. Alors, on le remarquait, il était habillé en Napoléon. C'est le jour où Trenet vous a dit « Elle est sympa, votre copine, mais dites-lui de me parler moins fort. » Mais moi, je croyais qu'il était sourd, je lui braillais à l'oreille.
Oui, mais nous, on ne l'est pas. Une question pour Yannis Soubelaïde, qui habite Montréal, c'est dans l'Hérault. Et la question concerne quelqu'un qui est mort très jeune, dans un duel. Il est mort en 1832, il avait 21 ans, oui c'est ça.
20... C'est un poète.
Non, c'est pas un poète. Enfin, il n'avait même pas ses 21 ans, il était dans sa 21e année, mais il n'a même pas pu aller jusqu'à son 21e anniversaire. Yep. Et il est mort à la suite d'un duel. Il disait lui-même, « Je meurs victime d'une infâme coquette ». Il a eu le temps de le dire parce qu'il a été touché de profil à l'abdomen au moment du duel d'une balle tirée à 25 pas. Et puis il a été conduit à l'hôpital par un paysan et il est mort là-bas d'une péritonite dès le lendemain, le 31 mai 1832. Quel est ce jeune homme de 20 ans mort pour un duel amoureux?
Il s'appelait Évariste Galois.
Le mathématicien français Évariste Galois. Excellente réponse de Christine Bravo. Ça, c'est bien, vous voyez, là, vous vous rattrapez. Vous êtes mieux que sur les gaufres, là, Christine.
Elle vient de boire un coca, c'est parti direct.
En plus, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle est posée, cette question.
Comment ça, c'est pas la première fois qu'elle est posée, cette question?
Qu'est-ce qu'il a, lui?
Oh, les accusations, j'accuse de François Berléand.
Ah, Berléand.
Je l'ai entendu en podcast.
François Berléand, j'accuse.
Eh oui.
Je l'ai entendu en podcast en 87.
Regardez, elle est soufflée, là, de chacun.
Et non pas Roger.
Elle est là, elle dit encore, les Jeux Olympiques d'hiver.
Je dis rien du tout, je vous écoute, régale.
Et comment je vais pouvoir placer Consuelo ce coup-là?
Qu'est-ce qu'on vous dit à propos des grosses têtes depuis le temps que vous êtes ici là? Ça fait combien maintenant? Quelques mois quand même que vous êtes régulière?
Quelques mois, ça fait 3 ans, non? Ça fait.
Oui, bah, oui, elle est arrivée quand je suis partie.
Ça fait 3 ans, je me suis absentée 2 ans sur 3 ans, mais bon.
C'est pour ça que je vous dis que ça fait quelques mois que vous êtes régulière.
Qu'est-ce qu'on me dit? Ben, ça dépend dans le milieu de l'édition, vous voulez dire?
Partout, partout. Les gens dans la rue, ils vous disent quoi?
Les gens dans la rue, ils me disent ils sont méchants avec vous.
Ils sont hyper méchants avec vous. Pourquoi ils sont méchants comme ça?
Allez, une autre question pour Pierre Leblanc qui habite Périgny-sur-Yerres dans le Val-de-Marne. Elles peuvent être vendues à un prix indicatif de 3,50 €. Et d'après une étude, Opinion Well, les Français y sont prêts. Mais de quoi s'agit-il?
Ils sont quoi? Ils sont très
ça
quoi?
Concerne la combien, combien?
C'est quelque chose dont à on disait que la France n'était pas prête pour ça. Et puis finalement, il y a une étude qui a été faite, une étude Opinion Way, qui nous dit à 3,50 € l'unité.
Les les couilles de Berlin,
la baguette. Ah non, c'est la 6G ou c'est pas c'est la un truc technique.
La baguette, la 6G, non. C'est aussi un article du Parisien.
Ça concerne la pandémie?
La pandémie, non.
Vous en avez, Laurent?
C'est David Charpentier. J'en ai encore jamais vu et
pourquoi?
Parce que c'est jamais arrivé jusqu'à moi.
Mais vous avez tout vu.
D'abord parce que c'est assez, pour l'instant, un marché inexistant. France, mais...
Ah, la canette de vin.
La canette de vin.
Oui, oui.
Bonne réponse de Florian Gazan.
Ah là là.
Horrible.
Non. Ah oui, j'ai vu ça.
Ah, j'ai vu ça.
Jamais, ils vont pas faire ça quand même.
Jamais, ils
vont... Ah non, non, non.
Ça marche aux États-Unis, la canette
de vin. Ils sont malades,
ah, ouais, tout qui marche.
Ça y reste.
Tout marche aux États-Unis. Même la canette de coca, ça marche. La canette en verre, alors? Peut-être la canette en verre.
Non, c'est pas en verre. Non, non, la canette de vin. Alors, c'est plutôt du vin blanc, ils disent.
Hein. Du rosé.
Les Français sont prêts à prendre du vin blanc ou du rosé en canette.
C'est de la piquette, non?
Pardon?
C'est de la piquette dans des canettes.
Hein. Bah, pas plus. De toute façon, le rosé, c'est de la piquette.
Oui, alors, mais le vin blanc, pas forcément.
Quoi?
Il y a des classés et des non classés qui sont très bons.
Il y a des bons rosés.
En biologique, les premiers très bons vins biologiques, c'était des rosés notamment.
La consommation en canette doit aller vers des vins sucrés type rosé pamplemousse. Vous voyez déjà.
Ça, c'est vraiment dégueulasse.
C'est pas bon.
Ou un vin blanc plaisir.
Oh, là,
l'effet curiosité est indéniable. 3,50 € la canette. C'est l'équivalent de 2 verres, une canette.
Oui.
Ouais, donc tu bois une canette, t'es ivre-mort.
Ils vont le faire en fût.
À quand le foie gras en poudre?
Non mais moi je trouve ça pas mal pour aller pique-niquer.
Non, faut pas faire
même
ça,
la bière en canette c'est pas bon. Alors,
bon, la bière en canette c'est
Non, c'est pas bon. Enfin, à moins d'être un hooligan ou un punk à chien, tu peux pas aimer ça. Non mais si t'aimes la bière en canette c'est moins bon quand même, non?
Même le coca c'est moins bon en canette.
Mais oui, en bouteille en verre c'est génial le coca. Et l'orangina c'est encore mieux. L'orangina en bouteille en verre, mais c'est un grand cru.
En fait, rien n'est bon en canette. Quoi.
Non, tout est bon.
Le pire en canette, je veux dire ce qui est le pire, c'est le Perrier en canette.
Ah oui, voilà,
c'est horrible.
Alors là, c'est alors là, il n'y a rien de pire. Parce que là, vraiment, l'eau a vraiment le goût du métal.
Mais voilà, c'est
alors
ça.
Que le shit en canette, ça passe bien.
Mais pourtant, le titre ce matin dans le Parisien, c'était bien « La France est prête à basculer pour le vin ».
Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout.
Non. Ah bah, écoutez, en vogue chez les...
C'est la question à des alcooliques. Non,
en vogue chez les anglo-saxons...
Non, mais Zemmour ne laissera jamais passer ça.
Pour les jeunes, pour les jeunes de 12-15 ans.
Pour les mecs qui n'ont pas de tire-bouchon.
Buvez du vin, les jeunes de 12-15 ans, buvez du vin.
Mais pour les mecs qui n'ont pas de tire-bouchon, c'est vachement bien.
Comment ça?
Pour les mecs qui n'ont pas de tire-bouchon.
Mais c'est fini, maintenant.
Tu te promènes dans la rue avec un tire-bouchon, toi.
Mais non, mais maintenant, les bouteilles, il n'y a plus de tire-bouchon, maintenant.
Oui, il y a de moins en moins le bouchon.
Il y en a encore moins sur une canette. Et la raison, l'avantage de la canette, c'est qu'on peut l'ouvrir comme on veut, vous voyez.
Ah bon,
non, parce que les canettes, l'anneau, il se casse tout le temps. C'est de la merde.
Passionnant, le grand silence.
C'est passionnant.
Pensez au monteur de l'émission, quand même.
Oh, l'autre.
C'est lui.
C'est toi qui dis ça?
C'est lui qui dit ça.
Non, mais les
j'en ai entendu des cons ici. Hein.
Les poubelles d'RTL sont remplies de tes phrases.
Il y a moins de déchets dans ce que
poubelle
je dis.
Toen.
Il y a plus de conneries, il y a moins de déchets.
Non, 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 non. À RTL, il y a la poubelle verte, la poubelle jaune et la poubelle Toen.
Lui, il a un égout surdimensionnel.
RTL. La valise. La valise RTL. À qui on va la confier, la valise RTL?
Certainement pas à moi.
Ah, pourquoi, monsieur Berléand?
Parce que je voudrais aller faire pipi.
Non, mais c'est comme à l'école ici, hein. Bon, alors je vais la confier à Sébastien Thoen.
Oh là là.
Oh là là. Mais François, t'as une poche, reste.
Monsieur Berléand, faites attention, ne
pisse pas sur l'invité
mystère. C'est à droite, hein, les toilettes.
À droite, à droite.
Ne vous trompez pas de porte, ne pissez pas sur l'invité mystère. Alors, monsieur Thoen, vous êtes prêt à faire la valise?
Avec plaisir.
Et je vais demander à Gaël Chakalov un numéro de 1 à 20. Allez-y, Gaël.
1.
Le 1, on va appeler Manuela Boulet. Manuela Boulet, qui habite à Francheville, dans l'Eure.
Boulet.
B-O-U-L-E, oui. Et Manuela.
C'est la TV.
Manuela.
Nanana.
Très belle chanson de Julio Ecclesias.
De Julio.
Ça sonne à Francheville. Il y a quand même une grosse valise RTL, attention.
Allô?
Oui, bonjour Madame Boulet.
Oui.
Oui, bonjour Madame Boulet. Ludovic Janssen, je travaille chez Sofinco. Je peux vous parler deux minutes?
Elle va raccrocher. Ne raccrochez pas Manuela.
Tu sais qui c'est Manuela?
Non, c'est qui?
L'émission qui cartonne sur la radio.
Ouais.
Bon, c'est qui?
On est plusieurs, on a un public.
Allez, Manuela.
On a un public devant nous qui vous applaudit déjà.
Les grosses têtes.
Oui. Ouais.
Ah, on vous arrache pas les mots à vous, Manuela.
Comment ça va, Manuela?
Manuela.
Manuela. Boulet, c'est marrant, c'est marrant. Vous avez dû vous marrer au lycée, vous. Alors, Manuela, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle de la part des grosses têtes?
Si, pour la question, non.
Alors, pour la question, mais la question, mais la valise. Est-ce que vous avez le montant et le contenu de la valise RTL du jour? Apparemment, non.
Vous êtes sur la route, Manuela, j'ai l'impression, non?
C'est un convoi de la liberté ou pas?
Où est-ce que vous êtes, Manuela?
Je suis au travail.
À votre travail? Ah, mais ça passe très mal, le téléphone, sur votre lieu de travail, manifestement. Ouais, on vous entend à peine, Manuela.
Non, pas, c'est vrai, et la fibre ne marche pas bien.
Ah, la fibre ne... Ah, faut... ah bah, écoutez, vous prenez des yaourts, beaucoup de yaourts.
Ah. Les pruneaux.
Qu'est-ce que vous faites comme travail, Manuela?
Je suis maître.
Eh ben voilà, on saura jamais, je pense. Hein. Ça marche très très mal.
Ouais, Manuela est décédée à l'instant.
Allô, allô.
Je vous réponds.
Ah, ah. Ben, mais on vous entend pas. Vous me répondez, mais on vous entend pas. Je vous jure, Manuela.
Ah, c'est mieux.
Ah, c'est
oui,
mieux,
c'est
Manuela.
Mieux, c'est mieux.
Est-ce que vous connaissez le montant et le contenu de la valise RTL pour la gagner?
Eh ben oui. Normalement, je l'ai.
Ah bah alors, allez-y. Alors, j'ai failli raccrocher moi bêtement.
Bah oui.
Alors on
bah,
vous
oui,
écoute.
Quand même.
On vous écoute.
Bah, oui. Hein.
Alors 1018 euros.
Oui, 1018, c'est bon.
Un pack caméra connecté de la marque Arlo Sécurité.
Oui.
Un livre Crime et Mystère de Paris.
Oui.
De Paul Elkarat.
De Paul Elkarat, oui.
Un Walt Machine Dynamique, M6 Boutique. Un bouquet Je t'aime de la connexion Saint-Valentin d'Interflora.
Interflora, venu d'Allemagne.
12 paires de chaussettes de Lagnac.
Ah oui.
De la part de Miss Gull.
Oui.
Vous pouvez les avoir, moi.
Et trois outils de jardin Gardena.
Oui.
Et c'est tout ce que j'ai.
Oh, malheureuse
Manuela.
Alors, dans un premier temps, j'y ai pas cru du tout. Après, vous dites, j'ai la valise, j'y crois. Et puis, total, et vous n'avez pas le total. Mais vendredi, on a ajouté quelque chose, vendredi.
Oh non.
Oh non, Manuela.
Vendredi. Mais en plus, je vais toujours en podcast. Donc,
mais si.
Mais si.
Et vendredi.
Les résultats du frottis de Chakalov.
Mais qui est con?
Quand je pense que mes enfants écoutent cette émission, mais c'est un malade.
Ils sauront que t'en as fait.
Comment ça se fait que vous n'avez pas ce qu'on a rajouté vendredi?
Parce que j'étais partie en vacances. Le podcast,
il y avait 3 mois aux Maldives.
Attendez, je l'ai écouté en plus. Alors
prenez tout votre temps, surtout. Hein.
Ah oui, hein.
Refaites toute l'émission, ça dure qu'une heure.
C'est vrai.
On va pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps, hélas,
bah
Manuela.
Oui, hein,
oh, c'est dommage.
Aïe, aïe, aïe. J'y vais, vous ne l'aurez pas.
Le Porsche Cayenne, vous l'avez pas?
Ah ben bah non, je
ne
l'ai pas, la
Porsche Cayenne. C'était un boîtier de conversion flex fuel pour payer l'essence moins cher. Enfin,
non, mais je m'en rappelle même pas.
Aïe, 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 aïe. Avec l'installation du boîtier de conversion flex fuel,
pour
ça va être une montre RTL, Manuela.
Quel poulet, cette Manuela.
Je suis désolé, Manuela.
Pas loin, en plus.
Ah, là, vous étiez à ça de gagner la valise RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manuela?
Je vous l'ai dit, je suis une aide-nageuse.
Maître nageuse.
Ah ben ça j'ai pas entendu. Oui. Non, pardon.
On l'a pas entendu. Vous l'avez dit à quelqu'un d'autre.
Vous voulez ou couler?
Vous êtes pour les glics.
Pardon.
Vous êtes pour
mais
les.
Mais pourquoi c'est pas Laurent Ruquier?
Ah bah c'est. Ah. Si si, c'est bien moi. Vous m'avez pas reconnu alors.
Ah non, mais ça c'est la voix du téléphone. D'accord.
Ah bah oui, ça, vous avez un téléphone pourri, vous avez un téléphone pourri. Nous-mêmes.
Bah, mais sincèrement, c'est ça, parce que je vous écoute assez souvent pour savoir quand même. Hein.
Et bah oui, parce que nous-mêmes, on ne reconnaît pas votre voix, Manuela.
Ah bah non,
elle est sous l'eau, elle est sous l'eau.
C'est pas Manuela, c'est Laurent Gérard, là, non?
On est désolé.
Bah ouais,
on est désolé, Manuela, on va vous envoyer.
Non, mais c'est pas grave.
Une montre
c'est
RTL.
C'est dur.
Ah, ouais. Oui, ah oui, c'est dur.
Vous
et
me
puis...
demandez toujours ce que ça fait quand je vous aurai.
Ah bah ça fait ça.
Vous faites quoi, alors? Vous pouvez nous décrire ce que ça vous fait.
Je vous ai pas trop cru au début, alors bon.
On va vous offrir. offrir une montre RTL, l'almanach des grosses têtes, si vous voulez, Manuela. Et je vais ajouter dans la valise un cadeau spécial Saint-Valentin, évidemment, aujourd'hui. Ce sera pas pour vous, hélas, mais ce sera pour la gagnante ou le gagnant de demain ou après-demain. Un coffret de bracelets de la marque Interchangeable.
Oh non.
Les Interchangeables, c'est des bijoux pour dire je t'aime. Des bijoux personnalisés, 100% made in France, ornés de cristaux Swarovski, tout de même. Voyons. Recouverts d'une fine couche d'or.
Mais non.
Ah si, quand même.
C'est dingue, non ?
Et attention, vous ne connaissez pas le site internet sur lequel vous pouvez évidemment acheter plus rapidement vos interchangeables.
Ah, c'est incroyable.
Lesinterchangeables.com. Sur lesinterchangeables.com, vous aurez toute la gamme. Toute la gamme de bijoux personnalisés, 100% français. Dites-lui, je t'aime avec des bijoux grâce aux interchangeables que je glisse dans la valise RTL.
Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL.
Attention, la voix de notre invité mystère est évidemment déformée. Vous n'avez pas croisé François Berléand, invité mystère ?
Si, si.
Non, non.
Si.
Vous me rassurez.
Vous êtes un homme. Vous êtes un homme, invité mystère ?
Non, non.
C'est une femme.
Une femme.
Okay. Une femme belle, qui a des... belle.
Évidemment. Magnifique.
Magnifique.
Ah, c'est une actrice.
Une femme qui a des enfants ?
Oui.
Combien ? Non. Deux enfants.
Vous êtes grand-mère ?
Ah non.
Non.
Oh bah le ah non.
Vous êtes comédienne ?
Un peu.
Comment ?
Un peu.
Est-ce qu'on vous a vu dans un film récemment ?
Non.
Ah, est-ce qu'on va vous voir dans un film récemment ?
Non. Vous êtes blonde, brune ?
Blonde.
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 On a affaire à une blonde et voici un premier indice musical. Avec cette chanson, n'est-ce pas, invité mystère ?
Double indice.
Ah, vous voulez taper ? Vous êtes tapé Julien Clerc ?
Non, mais le nom de Julien Clerc est important et la chanson aussi. Quand je joue.
Vous êtes animatrice de jeu ?
Non.
Vous avez déjà écrit pour Julien Clerc ?
Non.
Vous avez chanté pour Julien Clerc ?
Non.
Vous avez CD Julien Clerc ?
Oui, j'ai des CD Julien Clerc.
Vous le connaissez bien ?
Non.
Bah alors.
Il n'est pas de votre famille,
mais.
Vous êtes une cousine éloignée de ce chanteur, peut-être, c'est ça ?
Non, mais vous portez le même nom.
Exactement.
Enfin, attention, pas le nom sous lequel vous connaissent... Enfin, pour l'instant, ils ne vous connaissent pas, mais vous connaîtront dans un instant mes camarades grosses têtes. Mais en tout cas, votre nom de jeune fille est homonyme à celui...
De Julien Clerc.
Au pseudonyme de Julien Clerc, puisque lui, ça devient compliqué, mais c'est pas son nom à lui. Mais bon, bref.
Non, lui s'appelle Leclerc.
En fait, vous êtes, votre nom de jeune fille est homonyme du pseudonyme de Julien.
Voilà.
Vous êtes la sœur de.
On va s'en sortir.
Vous connaissez Evelyne Leclerc ?
Non.
Ah, je l'ai entendu l'écrire.
Donc elle s'appelle Claire, quoi.
Ouais.
Leclerc.
Oui, mais ça, c'est son nom de jeune fille. Claire, pas Leclerc.
Ah, Claire.
Voilà. Claire. Est-ce que vous faites du théâtre ?
Ouais.
Non ?
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Oui.
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 Ah, bah, on comprend non.
Ah oui.
Ah bah, je suis
désolée. Vous avez des problèmes de diction ?
Est-ce que vous avez joué dans une pièce de Laurent Ruquier ?
Non.
Est-ce que vous avez joué ou joué dans une série télé ?
Oui.
Florian Gazan propose Mélanie Thierry. Vous n'êtes pas Mélanie Thierry. Et puisqu'il a posé une question concernant une série télé, écoutez ce générique. Vous jouiez le rôle-titre, hein, n'est-ce pas, de cette série Invité Mystère.
Alors, tu as connu le générique de Game of Thrones.
Sébastien Toen propose Mélanie Doutet. Vous n'êtes pas Mélanie Doutet.
Non, elle est brune et j'ai dit que j'étais blonde.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, vous êtes blonde.
Elle a des rajouts, c'est pour ça.
Vous dites également que ce n'était pas votre métier principal d'être comédienne.
Non.
Donc vous avez un autre métier qui est tourné vers la chanson.
Vous êtes journaliste ?
J'ai été.
Vous avez été chanteuse ?
Journaliste.
Vous avez été journaliste.
Ouais.
Comme quoi ça mène à tout.
Exactement.
Voici un troisième indice.
La rumba du passo, ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris. Faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade. C'est haut la façade. tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade.
La rumba du pinceau, oui. Bah, c'était Bonville. C'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère?
Ah, c'est même un double indice.
Eh ouais.
Bah, c'est trop d'indices.
Mais... Bah ouais, là, c'est cadeau, là.
Ah, vous avez fait une émission de décoration?
Ouais.
Mais... Sébastien Thoen propose Michel Larocque. Pourquoi Michel Larocque?
Elle s'est fait refaire la façade.
Oh.
C'est hyper méchant.
Mais j'ai un pote chirurgien, il s'en est occupé, il m'a dit.
Mais n'importe quoi.
Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça.
N'importe quoi. Florian Gazan vous a identifié. Oh, Gaël Chakalov aussi, c'est un événement.
Oh, mais ça va, oui.
Mais Gaël, on a dîné ensemble.
Mais oui, on se connaît.
Gérard Jugnot vous a identifié, ça fait déjà 3 grosses têtes, et même 4 avec Christine Bravo. Il n'y a que le tandem Berléand-Toen.
Oh, ça va.
Est-ce bien étonnant?
Qui sèche encore. Voici encore un indice pour eux.
Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Quoi d'autif? Quoi d'autif?
Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé.
Quoi d'autif? Quoi d'autif?
Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller.
Oh, je vous ai laissé écouter un peu Patachou, parce que c'est quand même une chanson formidable. Patachou qui chante le bricoleur. J'ai un mari bricoleur là. Normalement, ça devrait venir quand même, monsieur Berléand, non ?
Qu'est-ce qui devrait venir ?
Le nom de l'invité mystère.
Ah, pardon, excusez-moi.
Et vous,
oui,
rien.
Mais oui, mais quand on va arriver, on va dire mais oui, puis là, tout de suite, non.
Ah, bah oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça suffit pas, mais oui, mais oui.
Donc, vous avez un mari bricoleur?
Vous voulez entendre sa voix?
Non, c'est par rapport à son travail.
Peut-être si je vous la fais écouter en train de chanter, ça peut vous aider, tous les deux, écoutez.
Ouais. Je suis pas comme toutes ces filles, avant qu'on ait visage pour des années. Moi, j'ai des formes et des rondeurs. C'est fait pour échauffer les cas.
Vous chantez pas si mal, invité mystère.
Ouais, c'est mieux qu'Angèle au Victoire.
C'est pas Marie-Ange Nardi?
Ah non, c'est pas Marie-Ange Nardi. Je me tourne vers les 4 grosses têtes qui vous ont reconnu. Notre invité mystère, c'est
Valérie Damido.
Et bien sûr, Valérie Damido nous rejoint. Valérie Damido était bien notre invité mystère.
Tu peux pas, Fred.
Valérie Damido s'expose. Elle est mise en scène par Éric Théobald pour un nouveau spectacle qui, si j'ai bien compris, est un one-woman show, Valérie Damido.
Exactement, Laurent Ruquier.
C'est la première fois que vous faites du one-woman show.
Oui, c'est vrai. J'avais fait des petites premières parties de Jarry. Mais là, c'est la première fois où je suis vraiment toute seule sur scène.
Vous avez fait un peu de théâtre aussi, mais là, on vous verra seule sur scène à Caen, à Montpellier, à Toulon, Marseille. Il y a un nombre incroyable de dates de tournée. Ça passe par La Rochelle, Lyon, Bordeaux, j'ai pas tout donné. Toulouse, Mulhouse, Blois, Rouen. Elle n'arrête pas, elle tourne jusque fin juin, Valérie Damido. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo?
C'est dingue, comment tu fais? Comment t'as fait?
Bah, un train, une voiture.
Comment j'ai fait?
Bah, elle a couché.
Non, mais c'est qui produit? C'est qui?
C'est qui même me suive?
Je connais pas.
Et le roi Merlin, quand même aussi.
Et aussi. Ouais, un sponsor outil.
Vous êtes jalouse, Christine?
Non, pas
Bravo.
Du tout. Il faut travailler pour faire ça. Donc non, je ne peux pas être jalouse de quelqu'un qui bosse comme ça. J'ai horreur de travailler. Mais je suis admirative. Voilà.
Et alors, c'est évidemment pour faire rire avant tout, Valérie Damido.
Oui, pour faire rire, oui. C'est un petit peu...
Mais vous racontez votre vie, c'est ça?
Exactement.
Ah bah, c'est drôle, alors.
Ma vie.
Bah, votre vie de jeune fille d'abord, Valérie Claire, d'où le premier indice.
Ouais.
Puisque Damido, c'était le nom de votre premier époux, on peut dire ça?
Exactement.
Voilà, que vous avez gardé, pas l'époux, mais le nom.
Oui. Voilà, pas l'époux, mais le nom.
Mais pourquoi t'as gardé le nom? C'était le méchant.
Bah parce que tout le monde me connaissait comme ça, et à chaque fois que je disais oui, c'est Valérie Claire, qui? Putain, Valérie Damido. Ah oui, voilà, donc je vous, j'ai fait, bon, allez, ça va.
Et sur l'affiche, alors là, parce que le titre du spectacle s'appelle Valérie Damido s'expose, mais sur l'affiche, vous vous exposez vraiment, vous êtes...
C'est-à-dire
bah regardez, elle est seins nus.
Faites voir.
Au revoir.
Ah, vous voulez voir Junio d'un coup, hein?
Ah ouais.
Montre.
Bon, alors, elle a, on peut dire, elle a peinturluré.
Oui,
elle a peinturluré.
Voilà, un petit peu marronflé.
Est-ce que je peux voir?
Oh.
Mais je vois pas les seins, je vois un clown.
Bah oui, parce que je suis... On a peint des yeux de clown sur mes niches.
Regarde, en bas. Oui. Elle est à poil, oui, elle est à
t'es
poil.
T'es gonflé.
Bah, si tu voulais que je fasse... Enfin, tu vois, il y avait deux solutions. Soit je fais une affiche hyper sérieuse, avec une robe un peu posée. Bon, soit j'y vais, quoi. Hein, donc...
Ah bah vous y êtes allé. Bon, on voit rien, je rassure les enfants, les parents. Elle a mis effectivement des yeux de clown et...
Et on voit la tarte au poil.
Non, on voit pas la tarte au poil.
Non, c'est la fine moustache.
Dans cette émission, ce genre de blague ne passe pas du tout.
Vous connaissez, mais comment vous n'avez pas reconnu Valérie D'Amido, vous?
La honte.
Surtout que, on peut se dire qu'on s'est beaucoup vu. À un moment donné, tu travaillais pour des choses un peu...
Une émission scientifique.
Ouais, une émission scientifique sur le sexe.
T'es venu au journal du Hard, on a fait une super interview.
Ouais, voilà.
C'est super. J'avoue, j'ai honte.
Mais qu'est-ce que vous faisiez au journal du Hard?
Bah, c'est lui qui a voulu m'interviewer sur ma sexualité.
Bah, à un moment, j'interviewais des gens connus. C'était marrant de faire le côté un peu les gens connus par la sexualité. Donc, j'ai eu Valérie, j'ai eu les frères Kouachi, j'ai eu... Ah. Vraiment, les gens qui comptent, tu vois, dans les médias. Non, mais on l'a fait avec Valérie, voilà. Donc, je suis désolé, Valérie, mais je suis contente de te voir et j'irai bien te voir en spectacle.
Et monsieur Berléand, alors, quand même, par connaître Valérie D'Amido?
Ben oui, mais moi, je ne reconnais jamais rien. C'est pour ça que je sors en général pour aller faire pipi, pour voir si...
Si tu connais la personne que tu vas pas reconnaître.
Vous n'êtes pas bricoleur, monsieur Berléand?
Si.
Vous n'avez pas revu les émissions de Valérie D'Amido?
Mais non, mais parce que je suis tellement bricoleur que j'ai pas besoin, moi.
Bon, faut dire que
mais c'était un piège aussi, journaliste à spectacle, à comédienne, tu penses pas...
Bon, enfin, quand même, la rumba du pinceau de Bourville, quand même.
Ah oui, mais j'ai pas pensé.
Le bricoleur de Patachou, c'était quand même des bons indices. Alors, c'est vrai que, en revanche, le générique, pour ceux qui ne regardent pas trop la télévision, le générique de la série, c'était bien le générique de Victoire Bonneau, hein, ouais, c'est bien ça?
Exactement.
Ça, j'ai pas vu.
Ah oui, d'accord.
Valérie D'Amido s'expose sur la route. Alors, on ne sait pas si ça se passe bien, vous n'avez pas démarré au fond.
Non, c'est le 26 février la première.
Eh ben alors, on vous souhaite bonne chance, comme on dit dans le métier. Merde alors, pour la première, 26 et 27 février, ce sont nos amis de Caen au Théâtre à l'Ouest qui vont voir vos plâtres essuyer en quelque sorte. Puisque vous allez essuyer les plâtres à Caen et la tournée tourne jusque fin juin. À travers la France, Valérie D'Amido s'expose et était notre invitée aux grosses têtes aujourd'hui. Merci, à demain, 15h30, avec d'autres grosses têtes.